C'est bon.
Voilà. Pardon ?
Oui, non, c'est bien.
C'est bien rectifié,
oui,
n'est-ce
pas ? Oui, c'est bien rectifié.
Voilà. Les procurations, nous avons oui. M. Tricoire pour M. Cassard, Mme Lebon pour Patricia Moulin-Trafort, Ariane Sanchez-Bresson pour moi-même. Pas d'autres procurations ? Donc nous passons maintenant à l'approbation, à l'adoption du dernier conseil municipal qui n'a pas fait l'objet de remarques écrites. Avez-vous des remarques en séance? Non. Je vous remercie, donc je le considère comme définitivement adopté sans réserve. Avant d'introduire cette... Alors, on a une modification de... Oui, vous avez une délibération qui est modifiée, la délibération numéro 16. Oui. Et un point modifié également, le point 4, sur les crédits de paiement du schéma directeur. Voilà. Donc ce sont les deux légers changements, ou disons modifications que je vous propose. Avant de démarrer ce conseil, je me permets de vous donner quelques éléments qui ont jalonné la vie de notre commune depuis le lundi 7 octobre. Dans la chronologie du calendrier, une première réunion le 22 octobre avec l'association de promotion des flux touristiques et économiques à l'aéroport, où la presse s'en est fait l'écho, vous avez le low-cost Ryanair, qui doit rembourser les aides dont il a bénéficié de la part des collectivités. Depuis 2005, c'est une enveloppe de plusieurs millions d'euros. Pour ce qui concerne le Pays de l'Or, c'est environ 800 000 euros qui devront être remboursés, puisque la Cour d'appel de la Cour européenne a estimé irrégulière l'aide accordée à ces compagnies, dont l'argent qui était avancé sera restitué aux collectivités. Actuellement, la somme est sous séquestre, mais elle sera ensuite, disons, débloquée quand les procédures judiciaires seront abouties. Vous dire également que le 25 octobre, j'ai participé au groupement au GPO du quartier de reconquête républicaine à Lunel, avec tous les partenaires, les bailleurs sociaux, la gendarmerie, la préfecture, la PJJ, avec la confirmation de l'attribution de deux gendarmes pour Moguio, un gendarme pour la brigade de Palavas, dans le cadre des 10 attributions nouvelles dont a bénéficié la compagnie de Lunel. Nous avons ensuite inauguré le 29 octobre la piste cyclable initiée par la POA dans le cadre des cheminements doux de Valergue à Ludaison et qui va se continuer bientôt de Moguio à la Banquière. Nous avons participé, certains d'entre nous, au congrès des maires entre le 19 et le 21 novembre à Paris, où nous avons notamment défendu la fermeture des trésoreries. D'ailleurs, dans un prochain conseil, je serai appelé à recueillir votre avis relatif à une sollicitation du directeur général des finances publiques relative à cette disparition des trésoreries. Et bien sûr, je vous inviterai à voter contre le démantèlement des services au public, puisque c'est ainsi que nous le percevons. Le 2 décembre, nous avons participé à une conférence de presse avec Mme Stubler, PDG de la compagnie Transavia, laquelle, vous l'avez vu également dans la presse, ouvre 14 destinations à partir du 2 et 3 avril prochain, à partir de Montpellier, des destinations dans le bassin méditerranéen, la Grèce, les pays du Maghreb, l'Espagne, les îles Majorque, Minorque. Donc c'est en fait un accroissement de 500 000 passagers annuels et la promesse de 1200 emplois induits, c'est ainsi que c'est perçu. Donc c'est une excellente nouvelle qui confirme la bonne santé de notre aéroport, auquel nous collaborons au mieux. En ce moment, il y a un travail qui est mené pour l'accessibilité avec les partenaires que sont le département, la région, la métropole, l'État et la commune. J'ai eu le plaisir d'accueillir le chef de l'État Emmanuel Macron le 3 décembre et qui venait aux assises de l'économie de la mer. Le 10 décembre, nous avons eu mardi dernier un bureau communautaire au cours duquel nous a été annoncé la labellisation de la communauté de notre territoire pour le label Citergie, c'est-à-dire tout ce qui milite pour la transition énergétique, avec tous les efforts qui sont faits. Et notre commune n'est pas la dernière, notamment dans les nouvelles utilisations de matériaux biosourcés. Le 18 décembre, nous avons eu d'abord le 4 décembre le repas des aînés à Carnon. Plus de 300 personnes s'y trouvaient. Certains d'entre nous les avons accueillis. Et je vous informe que nous avons la même cérémonie le 18 décembre, c'est-à-dire après-demain, le repas des aînés à Montbiot, où nous serons pratiquement 500. Une information également qui a été commentée par les uns et les autres relative à l'annulation du permis de construire de l'école de voile de Carnon en date du 21 novembre 2019. Donc un collectif a interjeté appel à la délivrance du permis qui a été délivré par non seulement les services de la commune, de l'intercommunalité, mais aussi validé par le contrôle de légalité, avec une ordonnance de référé favorable à la commune, au motif que le code L121-16 du code de l'urbanisme n'avait pas été respecté, à savoir qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, dont le principe d'inconstructibilité s'appliquant en dehors des espaces urbanisés. Notre collectivité a fait le choix de défendre sa position en plaidant la continuité de la zone urbanisée. Le juge administratif n'a pas retenu ce principe et a annulé le permis. D'ores et déjà, la commune a décidé d'interjeter appel en plaidant la jurisprudence Marseille-en-Plage. Je vous fais grâce à des détails. De solliciter également un appel sur sursis à exécution de ce jugement. Et ensuite, de relancer le dépôt d'une demande de permis de construire, identique au premier, mais qui se fonde sur l'article L212-17 du Code de l'urbanisme, lequel dit que l'interdiction prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Donc, la réalisation des installations, constructions, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique. Voilà, donc si la Cour ne fait pas droit à la requête de la commune, une instruction de régularisation sera menée dans un cadre différent. Je me permets de dire que l'intérêt général dans cette affaire n'a pas été la première préoccupation des plaignants. Nous verrons la suite qui sera réservée à cette affaire. Vous dire également que j'ai personnellement interpellé le Hussein Bourgi, le président d'Aérotransport de la région, pour l'ouverture de nouvelles lignes à Carnon. Qu'un courrier dans ce sens nous a été adressé, attestant que 3 nouvelles lignes seraient ouvertes le matin et 4 l'après-midi. Nous attendons aujourd'hui la finalisation entre le Pays de l'Or, qui en est l'autorité, qui en a la compétence, et la région, pour que cette mise en œuvre se fasse au plus tôt. Nous nous réjouissons de cette réponse et remercions la région de l'intérêt qu'elle porte à la mobilité de nos concitoyens. Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que suite à un bilan qui a été fait avec le major Grellepoix, nous avons des chiffres de la délinquance qui baissent à Carnon. La délinquance générale par rapport à 2018 passe de 95 faits à 69, la délinquance de proximité de 74 à 35, les vols sur les véhicules, 53 faits à 19 faits. Pas de cocorico, mais la constatation que le renfort des six policiers et la mise en œuvre de la vidéosurveillance portent leurs fruits. Je souhaite que ça continue. Et enfin, vous informer que Suite à l'annonce par la Caisse d'épargne de la fermeture de son distributeur de billets et des services aux usagers, ce qu'on a appris au mois de novembre, j'ai écrit et pris contact avec la direction de la Caisse d'épargne pour justement demander à la Caisse d'épargne, à défaut de leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qui n'est pas mon intention, leur dire qu'au moins ils maintiennent la distribution d'un distributeur pour les gens qui viennent à Carnot, notamment pour les commerçants. Ça serait très préjudiciable. Nous avons des pistes pour des gens qui se proposent justement peut-être d'offrir un lieu de nature à recevoir un distributeur. Voilà, donc nous passons sans plus attendre aux décisions municipales que vous avez en page 7,
monsieur,
dans 2.
Monsieur le maire, s'il vous plaît.
Monsieur Frappoli,
excusez-moi, avant de commencer les débats sur l'état du jour du conseil municipal de ce soir, j'aurais simplement voulu vous faire une réponse au courrier que vous m'avez envoyé, et je vous la fais oralement devant l'ensemble de la représentativité locale, parce que vous, sur le courrier, vous dites, vous savez, c'était suite avant le conseil municipal de Carnot, du 7.
Oui, je vous avais invité à venir voir.
Non, j'ai jamais été invité par personne. Mais si. Personne n'est venu me chercher pour aller le visiter. Non, mais là, je vous défie de trouver quelqu'un dans cette salle ou à l'extérieur qui serait venu me chercher pour me dire il y a une visite du CSU à ce moment.
Tous les membres du conseil municipal ont été invités.
Ah non, monsieur, pas moi.
Et vous en faites partie.
Pas moi, monsieur Bourrel, je suis désolé.
Ah bon, vous faites pas partie du conseil.
Je fais partie du conseil, mais je n'ai pas été invité.
Tout le monde a été invité.
Eh bien non.
Je vous le garantis.
Le seul avec qui j'ai parlé de cette visite, c'est avec monsieur Pradel qui était assis à mes côtés, qui avant de commencer le conseil, il m'a dit on a visité la CSU qui n'était pas là. J'ai dit ben, j'aurais bien le savoir parce que je ne le savais pas. Voilà. Maintenant, juste dans la mesure où nous avons un différent à ce sujet, j'aurais bien aimé saisir le comité d'éthique, mais est-ce qu'il existe un comité d'éthique à la mairie de Mouguio Carnon dans le cadre de la mise en place de la vidéosurveillance? C'est préconisé par la CNIL, mais je n'ai pas trouvé.
Monsieur Frappoli, pour relancer les gendarmes, vous me la baillez belle, de faire de croire que vous n'étiez pas au courant.
Je n'étais pas au courant, monsieur Bourrel. Je le répète devant tout le monde ici, je n'étais pas au courant.
Très bien, voilà. Écoutez, vous l'avez répété,
je l'ai répété. En ce qui concerne votre gendarme référent, j'aurais bien aimé que, sur le courrier que vous m'avez adressé, il me cite les articles sur lesquels il se réfère pour m'interdire la visite en état de fonctionnement du CSU. Moi, dans les courriers que je vous ai envoyés, je vous ai cité la CNIL, je vous ai cité le Code de la Sécurité Générale, je vous ai cité le portail des professionnels territoriaux, où là, j'ai la possibilité de visiter ça. Je crois que vous confondez le fait de visiter et le fait de récupérer des images. Moi, je ne viens pas pour récupérer des images, je viens simplement pour regarder comment ça fonctionne et dans quel axe sont orientées les caméras. C'est tout, je ne vous demande pas autre chose.
Monsieur Frappoli, je vous fais observer qu'à l'heure où je vous dis que les faits sont en régression notable, à l'heure où je vous dis que les effets de la police sont de nature à satisfaire, je l'espère, la diminution de ces faits, vous revenez sur une affaire où votre bonne foi n'est pas forcément avérée, pour justement satisfaire une question personnelle,
mais non,
pour savoir comment il a mis. Bon, écoutez, je vous réécrirai, le sujet n'est pas là, le sujet est sur les résultats, et soyez certains que je ferai vérifier par les services l'envoi de l'invitation dont j'assure qu'elle a été faite.
J'ai regardé.
On n'en a pas d'ailleurs derrière les conseils. Bon, on clôt le sujet, monsieur Frappoli. On passe aux décisions diverses.
On en restera là.
Ouais, on en restera là. Alors, vous avez les décisions municipales avec en page 2, on a dit. Bon, vous avez les missions pour le schéma directeur, vous avez les différentes décisions par rapport au spectacle, vous avez les avenants par rapport l'amélioration du pluvial à Carnot. Voilà, puisque on a depuis pas mal de temps, on avait repéré les travaux à réaliser, d'enfouissement de réseau, donc c'est en train d'être fait. J'espère que les jeunes de la rue des Fondateurs seront contents. Ensuite, vous avez des travaux sur l'éclairage à Carnot également, et ensuite les procédures adaptées pour les véhicules neufs. Voilà. Donc, vous avez la requalification également de l'avenue Jean Moulin. Vous avez les avenants sur la création d'une casquette au boulodrome. Voilà, la réhabilitation de l'île aux préserves, on va y revenir. Le réaménagement de la cour de Mario Roussin.
Oui, juste une petite question.
Monsieur Bourguet, oui.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Il y a six décisions d'ester en justice, là, au début. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut savoir à peu près un peu à quoi ça
alors,
correspond.
Lesquelles?
Il y en a six.
Désignations, alors, ce sont des permis de construire, ce sont des contestations d'urbanisme. Oui.
Des permis qui ont été refusés ou des choses comme ça?
On va vous dire. Alors, le 106, Bernard, tu peux répondre?
Vas-y. Ça a été un permis qui a été refusé, effectivement, oui. Le premier.
Oui. Le 17.
Vachonniac, c'est également un permis refusé. C'est la même chose.
Oui. Modification de la régie de recette du port de Carnot, ça c'est un. Ensuite, Gomez. La 110.
Oui. Gomez et Bézénas, c'est la fin de
l'année.
Oui, c'est la fin de l'année.
Le déféré de l'arrêté sur la fin de l'année.
Déféré de l'arrêté, c'est la fin de mouvement. D'accord. Bon. D'ailleurs, c'est un
gros.
D'accord.
Mais pourquoi il y a une décision d'ester en justice par rapport à la fin de mouvement?
Ben, les négociations auprès des propriétaires n'aboutissant pas.
Mais bon,
c'est pour désigner l'avocat pour défendre la commune, c'est tout.
D'accord. Voilà. Et c'est la commune qui paye, c'est pas la fin de mouvement.
C'est la commune,
c'est un acte du maire. Oui. Bien. Ensuite, nous allons passer au débat d'orientation budgétaire qui est le menu du jour. Avant de céder la parole à Mme Favier, juste quelques mots d'introduction qui ne présagent rien de ce qui sera fait, mais qui en définissent quand même les contours. J'aurais pu, comme le font souvent certains maires ou dans certaines communes, me désoler ou m'apitoyer sur la baisse des dotations. On connaît malheureusement le résultat, 1,5 million de moins en 3 ans, 2014-2017, 16% de moins. J'aurais pu vous parler de la contribution du fonds de péréquation intercommunale qui est monté de rien à 400 000 euros. J'aurais pu vous parler de l'amende que nous avons honorée relative au logement social il y a 3 ans, 424 000 euros, et encore, c'est pas fini. Donc, malgré cela, ce que je tiens à dire en regardant sur cette fin de mandat, dire que le maintien du service public a été notre préoccupation, et voire même son amélioration, comme on a pu le voir tout à l'heure, sur la sécurité, sur la propreté, sur les offres culturelles, sportives, sur le cadre de vie en général. Que tout au long de ces 6 ans, nous avons pratiquer une politique d'investissement ambitieuse, 34 millions d'euros, ça fait près de 6 millions d'euros par an, et pendant ce temps-là, la dette a baissé de 15,5 millions en 2014, elle est passée à 12,2 millions en 2019, et Madame Favier nous en parlera tout à l'heure, nous avons un plan prévisionnel d'investissement qui ramènera la dette en 2025 à 15 millions d'euros, ce qu'elle était au début de mandat en 2014. De cette manière, nous préservons, avec une maîtrise, ce sera certainement les mots de Caroline, une maîtrise et une capacité d'emprunt préservée pour justement prévoir ce budget 2020 et les budgets à venir. Sans plus tarder, Caroline,
j'enchaîne.
Vous enchaînez.
Alors, avant de rentrer, enfin d'attaquer sur le vif du sujet, je voulais juste, pour resituer le débat d'orientation budgétaire, vous donner le sommaire, comment ça se déroule. On repart toujours des rétrospectives des réalisations du mandat, donc de 2014 à 2019, les principales dispositions de la nouvelle loi de finances pour 2020, les tendances budgétaires et les grandes orientations de la commune, les grands équilibres financiers, les niveaux d'endettement, la programmation à venir et le financement de nos investissements, la gestion de la dette, les orientations du budget du port de Carman et bien sûr le débat. Alors, c'est le dernier DOB de ce mandat et j'avais envie de commencer mon introduction d'une façon un peu moins académique que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que je crois que c'est, comme vient de vous le dire monsieur le maire, c'est important aussi de voir cet aspect-là. Ben, je suis aujourd'hui une adjointe aux finances heureuse. Donc, non pas satisfaite, eh ben oui, je le dis, non pas satisfaite parce qu'il y a toujours des possibilités de faire mieux et d'évoluer, mais heureuse quand je vois effectivement le bilan sur ces 5 dernières années qui viennent de s'écouler. Monsieur le maire vient de vous le dire, il y a quand même 34 millions d'euros d'investissement qui ont permis eh bien, de vivre dans une commune Moggio-Carnon avec des équipements et un cadre de vie qui sont quand même exceptionnels. C'est ce que disent tous les gens, tous les nouveaux arrivants, les gens qui viennent de l'extérieur, quand nous les rencontrons au niveau des manifestations. Moi, je suis, je vous le dis, je suis heureuse quand je vois que ces gens sont heureux de vivre sur Moggio-Carnon. Alors, 34 millions d'euros qui ont été investis, avec toujours trois priorités, qui sont la propreté, la sécurité et l'éco-citoyenneté. Nous avons enrichi notre patrimoine, embellit notre cité avec des équipements comme la réhabilitation du château des Comtes de Melgueil, la réhabilitation de l'école Prévert en maison des associations, la base nautique Marcel Buffet à Carnon et une multitude d'autres équipements et voiries. Parce que je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est que tout ça ce sont des nouveaux équipements, mais ça a dû être fait en maintenant le niveau de vie, c'est-à-dire l'entretien de nos bâtiments administratifs, de nos voiries, de tous les chemins communaux, de tout ce qui est le coût, le maintien des écoles, bien sûr, et tout ce maintien de l'existant, en plus des nouveaux projets. Bientôt va démarrer le schéma directeur qui est ambitieux et responsable, qui sera pluriannuel, on va le voir un petit peu plus loin, et adapté, évidemment, aux capacités financières de la commune, avec des accents mis sur la mobilité douce. Ça a été vu, un travail fait avec le département, des équipements avec des matériaux biosourcés, c'est le cas de la Fonde Moggio. Donc, ces travaux de requalification ont vocation à changer l'image de notre commune et de l'inscrire dans un développement durable qui profite aux habitants, bien évidemment, et toujours dicté par le souci de transition énergétique. Alors, pourquoi je suis heureuse, enfin, au travers de ma fonction, évidemment, hein, vous l'aurez compris. C'est parce que toute cette réalisation-là, elle a été faite dans une rigueur financière, monsieur le maire l'a précisé en introduction, qui a été quand même une baisse de notre dotation de l'État d'1,5 million d'euros. Et ça, c'est pas rien. Il y a eu une rigueur financière qui a été mise, et notamment sur le fonctionnement. Je remercie aujourd'hui devant vous le service financier et au travers ma directrice financière, madame Banque, mais aussi tous les services et les élus qui ont aidé à réaliser ça, parce que ce n'est pas seulement une volonté financière, c'est-à-dire que si mes petits copains élus et les services derrière n'avaient pas joué le jeu, on ne serait jamais arrivé là. Donc j'en remercie, surtout sur cette période où on est en train d'arbitrer le budget 2020 qui arrive, parce que il faut faire avec ce qu'on a. Je pense qu'il en va de notre responsabilité afin de garder des finances saines, et vous allez le voir dans le développement de la suite avec des ratios qui sont excellents sur notre commune. Voilà, donc la rétrospective des réalisations du mandat. Pour vous donner quelques chiffres, je vous l'ai dit, 34 millions de réalisations d'investissement, programme de voirie 6 millions. Alors je vous parle bien sûr de 2014-2019. Programme de voirie, un peu plus de 6 millions. Aménagement des lots Prévert, un peu plus de 3 millions. L'amélioration du patrimoine scolaire, 2 millions. La réhabilitation du yacht club, 1,8 million. La réhabilitation du château des Comtes de Melgueil, 1,6 million. Les travaux sur l'avenue Jean Moulin, phase 1 et 2, 1,5 million. La fin de la construction du groupe scolaire Camus, 900 000 euros. Alors, ça c'est du concret, mais je suis quand même obligée de vous parler finances pures. Donc, quelles sont les principales dispositions du projet de loi à venir sur la loi de finances 2020? Le premier point, on en a déjà parlé, vous le savez, on doit contenir l'évolution de nos dépenses de fonctionnement. Elles ne doivent pas augmenter de plus 1,2%. On vous l'a dit, la baisse, il faut faire avec une baisse de dotation en fonctionnement d'1,5 million. Donc, la commune, bien évidemment, a réagi avec un plan de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Et aujourd'hui, les hypothèses de prospective financière seront maintenues, c'est-à-dire qu'on sera à maximum 1,2% d'évolution de nos dépenses de fonctionnement pour les années qui arrivent. Alors, quelles sont les mesures de ce projet de loi? Ben, la plus importante qui nous concerne tous, vous le savez, on en parle maintenant depuis quelques temps, c'est la taxe d'habitation. Donc, la taxe d'habitation, les bases et les taux sont figés en 2020. Le taux est figé, il faut laisser la porte ouverte.
C'est obligatoire. On gêne pas le budget, mais...
Alors, j'en reviens à la taxe d'habitation, désolée. Donc, les taux sont figés. Le taux de référence, c'est celui de 2019, figé au taux de 2019. Le gouvernement avait décidé que ne serait pas appliquée l'évolution des bases de 2,2% en 2019. On l'a vu à Paris au Congrès des maires, tout le monde, les communes sont montées au créneau et notamment au travers de l'AMF. Du coup, la commission des finances de l'Assemblée nationale a réintroduit par amendement un coefficient de revalorisation qui est de 0,9 pour 2020. Il y aura, pour compenser cette baisse de taxe d'habitation, enfin la suppression de baisse de taxe d'habitation, un transfert de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti aux communes en 2021. Donc afin de compenser cette baisse, bien sûr. Sera aussi mis en place un coefficient correcteur afin de neutraliser les écarts de compensation. L'année de référence pour les taux et abattements taxes d'habitation des communes pris en compte sera 2017. Le maintien d'une imposition sur les résidences secondaires et les locaux vacants, ça ne change pas. Au niveau de la fiscalité locale, c'est-à-dire les dotations et péréquations, le projet de loi n'introduit pas de modification dans le calcul de la dotation forfaitaire qui continuera donc d'évoluer en fonction de l'évolution de la population DGF. La population DGF, c'est le nombre de résidences principales et de résidences secondaires qui définit notre population. Et de l'écrêtement, si le potentiel fiscal de la commune est supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen. Le projet de loi 2020 maintient les enveloppes de FPIC, c'est-à-dire le fonds de péréquation intercommunale et communale, à leur niveau de 2019. Donc là, pas de modification. Alors, quels en sont les impacts pour notre commune Modio-Carnot ? En 2020, l'année de transition et surtout la dernière année au titre de laquelle les collectivités vont percevoir produits de taxes d'habitation sur les résidences principales, on aura deux effets principaux qui sont prévus. La loi prévoit que les valeurs locatives, taux d'imposition et montant d'abattement appliqués en 2019 sont reconduits telles quelles. Autrement dit, aucune revalorisation des bases de taxes d'habitation n'est à prévoir pour nous. Et les communes et EPCI sont privées de tout pouvoir de levier qu'il y avait jusqu'à présent par rapport à cet impôt. Donc l'objectif est bien entendu de limiter le coût de la réforme pour l'État qui prendra en charge le besoin des compensations en valeur de base 2020. Les incertitudes qui pèsent sur la réforme de la fiscalité créent une contrainte supplémentaire sur les recettes de la commune, bien évidemment. Alors, vous le verrez un petit peu plus loin, on a un schéma où on voit la répartition de nos recettes de fonctionnement. En fait, c'est ce schéma qui est très intéressant parce que vous allez voir, là, on voit concrètement quel est l'impact pour nous d'une, de cette baisse de levier. Ah ben là, voilà, qui arrive. Formidable. Donc, voilà, là, on voit bien. Donc, vous avez la répartition de nos principales recettes de fonctionnement. Et tout ce qui est la période bleue en bas, c'est le, ce qui correspond aux produits des taxes locales. Alors, les tendances budgétaires et les grandes orientations de la commune. On l'a dit, la baisse a assumé, baisse des dotations d'1,5 million. Cette nouvelle dynamique résulte en partie de la revalorisation des bases fixées à 2,2% en 2019, après 1,2% en 2018 de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle s'explique également par la progression des produits issus du domaine, c'est-à-dire tout ce qui est revalorisation des tarifs des plages privées, des parkings payants, etc., et les cessions immobilières. L'attribution de compensation versée par l'agglomération du Pays de l'Or n'évolue pas. Donc là, on les voit. Vous avez un premier... là, c'est la répartition. Voilà, celui-ci. Évolution de nos recettes de fonctionnement. Donc, en 2018, on avait eu une légère baisse. 2019, je viens de vous expliquer pourquoi, on a eu une hausse à nouveau d'1,92%. La répartition... de nos recettes de fonctionnement, on revient voilà, à ce schéma qui montre bien que le produit des taxes directes est bien la part la plus importante de nos recettes de fonctionnement. Ensuite, vous avez la fiscalité indirecte, c'est la partie la plus claire. C'est tout ce qui est attribution de compensation de l'ABO, fiscalité économique des entreprises, la TLPE, les droits de mutation et les taxes sur l'électricité. La partie vert clair, c'est la partie des dotations. On voit bien la façon dont ça a diminué d'une façon très significative. Et tout ce qui est le haut de votre colonne, les autres recettes, c'est tout ce qui est parking, marché et plage. Alors, les perspectives pour 2020. À partir de 2020 et sur la durée de la prospective des recettes de fonctionnement, eh bien, elles vont progresser faiblement. La progression des bases de taxes d'habitation, on l'a vu, ben, est neutralisée. L'attribution de compensation, tout ce qui est fiscalité reversée par la communauté d'agglo, sera diminuée du montant des charges transférées dans le cadre du transfert de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines. Alors, ce montant, je ne le connais pas encore puisqu'on est en cours d'évaluation sur ce transfert de charges. Et la DGF devrait diminuer chaque année d'environ 50 000 euros. Au niveau des recettes de fonctionnement, en conclusion, 2019, on voit une évolution des recettes réelles de fonctionnement qui est plus dynamique sous l'effet d'une progression des bases fiscales et d'actions qui ont été menées pour l'optimisation du domaine public. La réforme de la fiscalité ne permettra plus à très court terme d'actionner ce levier fiscal. La commune devra créer de nouvelles sources de financement en travaillant sur la tarification des services aux usagers. Et pour répondre aux nouveaux enjeux, la commune a créé une direction d'optimisation des ressources dont les objectifs sont d'anticiper et de créer de nouvelles sources de financement. Au niveau de l'évolution des dépenses de fonctionnement, sur la période 2014-2017, donc même chose, on a mis un tableau. Donc l'évolution moyenne des dépenses de fonctionnement, c'est 0,89% et évolution totale 4,55% entre 2014 et 2019. Au niveau de la répartition des dépenses, voilà, même chose, un schéma. Bien sûr, comme dans toute collectivité, et j'allais même dire entre toute entreprise, c'est les charges de personnel qui représentent la plus grande partie des dépenses de fonctionnement. Donc j'allais dire que l'enjeu à venir sera, sera sur ce domaine. charge, la partie en rouge, c'est la charge à caractère général, donc tout ce qui est électricité, les fluides de fonctionnement, des services, fourniture scolaire, etc. Les subventions versées, vous les avez en bleu, bleu, vert foncé, vert canard, j'allais dire. Intérêt de la dette, c'est tout petit. Et les autres dépenses, tout en haut, vous l'avez sur les tablettes, hein. C'est plus visible à la distance. Alors, il est important à chaque fois au DOB de faire un focus sur les dépenses de personnel. Donc, comme beaucoup de collectivités, je vous le disais, les charges de personnel représentent la plus importante, c'est le premier poste de dépense en section de fonctionnement. Donc, pour nous, en 2019, c'est 14 166 000 euros. La maîtrise de leur évolution constitue un enjeu majeur sur la période 2014 et 2019. La masse salariale connaît une augmentation modérée qui correspond à 2,56%. Les fortes variations en 2015 et 2016 correspondent à la prise en charge des nouveaux rythmes scolaires par la ville. Donc le transfert d'agglomération du Pays de l'Or et puis après le retour ensuite. En 2020, une progression est prévue de 1,6% des dépenses de personnel. Donc pour 2020, la ville table sur cette progression-là, qui tient compte du GVT. Cependant, il conviendra d'affiner avec précision les effets de la mise en œuvre de l'accord parcours professionnel, carrière et rémunération, qui avait été suspendu en 2018, mais qui sera à nouveau programmé à partir de 2019. Donc cette réforme doit impacter certains cadres d'emploi de la catégorie C et A. On n'a pas encore toutes les informations pour faire la prospective. L'évolution de la masse salariale est également due à l'évolution des effectifs permanents et non permanents, saisonniers, renforts, et à l'évolution des composantes de la rémunération, et bien sûr tout ce qui est heures supplémentaires et carrière des fonctionnaires. Par ailleurs, ce chapitre est impacté par plusieurs dispositifs légaux sur lesquels on n'a pas la main, bien évidemment. Notamment le relèvement de certains taux de cotisation qui seront connus d'ici janvier 2020. L'évolution de la masse salariale entre 2014 et 2020, vous avez un graphique qui vous montre cette évolution. Donc 2020, pour l'instant, l'estimation est à 14 392 000 euros. Au niveau des grands équilibres financiers, alors, épargne brute, épargne nette, effet ciseaux, je vous le refais en résumé. L'épargne brute, c'est ce qui représente notre richesse financière, puisque c'est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Et pour avoir notre épargne nette, on enlève le remboursement déduit, le remboursement du capital de la dette. Tout ça, pourquoi on surveille? C'est toujours pour éviter le fameux effet de ciseau. C'est le cas puisqu'on a augmenté nos recettes de fonctionnement et limité, maîtrisé nos dépenses de fonctionnement. Donc là, on le voit bien, vous vous rappelez, quand on en parlait en 2014-2015, j'allais dire, c'est comme un budget pour chacun d'entre nous. Hein. Quand il y a plus de dépenses que de recettes, au bout d'un moment, il y a un souci. C'est exactement pareil. Donc ces équilibres financiers sur la période 2014 et 2019 sont préservés. Le niveau d'épargne témoigne d'une très bonne santé financière de la commune. Et je le redis, avec une augmentation des recettes de fonctionnement. Juste un petit topo sur notre niveau d'endettement. Donc, l'encours de la dette, c'est évidemment le stock de nos crédits en cours. Les annuités de la dette sont les sommes payées chaque année par la commune pour rembourser nos crédits. Donc, 2019, nous sommes avec une annuité de 1 358 525. En 2019, nos emprunts en cours de notre dette, nous sommes à 12 185 103 euros. Et il y aura un nouvel emprunt en fin 2019, là on vient de l'ouvrir, 3 215 000 euros. Donc le stock de dette a diminué de 21,16% sur la période 2014-2019. Alors pourquoi? Parce que c'est bien de vous dire ça, mais quel était l'objectif? On a préféré rembourser une partie de notre dette pour pouvoir repartir d'abord avec des taux plus bas et pour pouvoir avoir une capacité d'endettement supérieure sur les nouveaux gros projets. Donc l'annuité de la dette, je vous l'ai dit, on était à 1,358 000, ça c'est pas la peine d'y revenir. La synthèse du remboursement du capital et des intérêts de la dette, donc là c'est un petit, pareil, un graphique qui vous montre l'évolution de notre dette. Donc le ratio de désendettement était sur 2019, est actuellement à 4 ans. C'est-à-dire que par rapport à nos recettes, à nos épargnes, si on devait rembourser la totalité de notre dette aujourd'hui, il faut en 4 ans c'est remboursé. C'est un taux qui est excellent. La programmation et le financement des investissements de la collectivité. Alors, avec tout ça, que fait-on maintenant? Donc, répartition des recettes d'investissement. Alors là, voilà, là on le voit, vous avez un graphique qui est très intéressant, puisque on voit justement la diminution de la dette et 2019, à nouveau ce nouvel emprunt qui apparaît. Au niveau des recettes d'investissement, vous avez le FCTVA, les subventions qui sont perçues en rouge, c'est toutes les subventions qui sont perçues par rapport à notre PPI, notre plan d'investissement. La taxe d'urbanisme, c'est la couleur jaune claire. L'emprunt et autres recettes au-dessus, bah, qui est maintenant plus petit. Au niveau des dépenses d'investissement, bah, là c'est parlant, vous avez 2014-2019, l'année des réalisations sur voilà, qui arrive, les investissements qui arrivent à échéance. Et les principales dépenses du PPI. Alors, avant ça, je voulais... Oui, j'ai un tableau. Voilà. Le fonds de roulement. Alors, le fonds de roulement nous montre bien ici... ce tableau montre bien que tout ce qu'on a pu imaginer comme quoi Mogio Carnon gardait trop de trésorerie et l'utilisait pas... Voilà, ça y est, c'est chiffré, c'est démontré, tout ça est utilisé et on a même dû faire, donc là, un emprunt d'un peu plus de 3 millions pour enchaîner sur les autres investissements à venir parce que nous avons utilisé, ça y est, la totalité du fonds de roulement. C'est pour ça qu'il était important, c'est de l'anticipation, la prospective financière, c'est-à-dire que cet argent-là, ne dormait pas, cet argent-là, cette trésorerie était prévue dans le PPI. Donc je vous rassure aujourd'hui, une fois de plus, j'en suis heureuse décidément, la trésorerie avait bien été prévue, anticipée, pour être utilisée à de bonnes fins, et c'est fait.
Le temps que tu bois, pardon, vous pouvez remettre la slide précédente. À partir de 2016, on était à 6,4 millions. On est allé en décroissant, 5,8 millions en 2017, 4 millions en 2018, et on savait qu'on aurait besoin de tout pour 2019. À cela, on a remboursé des emprunts, ce qui fait qu'on peut repartir sur des emprunts, un emprunt à 3 millions avec des taux.
Avec des taux 0,89.
Voilà, merci.
Alors, donc, avec toutes ces bonnes. Ces bons chiffres, maintenant. On peut réaliser la suite. Donc, les principales dépenses du PPI 2020-2025. Donc là, vous avez les grands projets. La requalification de la station du littoral. Donc, 50 ans après la mission Racine, la commune de Mondiot-Carnon engage un projet ambitieux de requalification de la station balnéaire. La volonté, c'est bien sûr de renforcer l'attractivité du littoral. Les opérations d'aménagement qui seront entreprises dans ce cadre visent à créer une station balnéaire apaisée, avec une identité différenciée, améliorer la lisibilité du territoire dans son ensemble et répondre aux besoins du développement de la ville permanente. Donc le montant prévisionnel est à 6 748 000. Dans un premier temps, on va le voir un peu, puisqu'il y a une délibération qui suivra, on va le mettre en APCP. Au niveau de la réhabilitation du jardin du Bosquet, donc le montant prévisionnel est à 787 732 euros, dont 534 531 subventionnés. Donc ça participe bien sûr à la requalification de Carnon. Les opérations de réfection de l'avenue Jean Moulin. Donc cette opération de travaux est programmée en deux tranches. Elle s'inscrit dans une démarche plus globale de requalification de la voirie engagée depuis 10 ans par la commune de Mondiot-Carnon. Et le but étant évidemment d'améliorer l'aménagement des axes pénétrants menant au centre-ville. Elle sera également un axe central pour le nouveau quartier projeté sur la fin de Mondiot. Donc la première tranche était 1 340 000 et la deuxième tranche 1 million. Et la création du groupe scolaire dans le nouveau quartier de la Fonde Mobile. Donc, projet en cours d'étude, un montant estimé à 5 640 000 euros et le financement de la ZAC de la Fonde Mobile, 2,8 millions d'euros. Les orientations du port de Carnon. Alors, oui, j'aurais dû vous le dire au début, le débat d'orientation budgétaire, on l'a fait, la loi nous permet. On fait la commune et le port, on l'enchaîne directement, au lieu de faire deux débats d'orientation budgétaire.
Donc ça veut dire que tous les investissements qu'on a vu jusqu'à présent à Carnon sont des investissements de l'Église.
C'est ça, tout à fait.
Pour l'amélioration de la vie quotidienne des Carnonais.
Donc là, on va passer sur les investissements pour...
Exactement. Donc là, on passe sur le DOB uniquement du port, tout à fait.
Donc la ville met 5 millions, c'est quelque chose.
6 millions.
Vous aimeriez bien avoir 6 millions à Valadas.
6 millions, c'est ça.
Ça va être un petit cours.
Ça va être un petit cours. Hein.
Un casino, peut-être.
Alors, pour le port, la section de fonctionnement, les prévisions de recettes, peut-être que l'argent financier de Valadas est moins heureux. Les prévisions de recettes réelles de fonctionnement sont en hausse de 3,76% en 2020. Pourquoi ? Parce qu'il y a une reprise de provision pour le dragage, une subvention d'avance pour l'opération de dragage. Ces mesures s'accompagnent de la stabilisation des recettes issues de redevances nouvelles. Les prévisions des dépenses de fonctionnement affichent une augmentation de 3,76% par rapport au budget primitif 2019. Justifié par les gros travaux d'entretien de dragage qui sont prévus à l'automne 2020. L'évolution des tarifs et les droits d'usage pour 2020 pour le port. Donc, d'une manière générale, les tarifs 2020 augmenteront de 1%, taux inférieur à celui de l'inflation. Les principales évolutions sont énoncées ci après. Donc, on a, compte tenu de l'adoption de la loi d'orientation des mobilités, les 5 tranches forfaitaires objets d'avenants relatives à la consommation électrique ont été supprimées au profit d'un paiement au kilowatt au-delà de 700 kilowatts compris dans le prix de la place de port à l'année. Donc le tarif a été fixé à 0,16 euros. Afin de rendre le port de Carnon plus compétitif par rapport aux ports voisins, les évolutions tarifaires suivantes ont été actées. Les tarifs d'escale à la journée, semaine et mois ont subi une baisse de 20% en moyenne. Les tarifs du carénage ont été totalement revus avec une modification des formules et des abattements. La création d'un tarif carénage sur remorque à 10 euros par 30 minutes. Et les professionnels bénéficieront d'un abattement de 10% sur les tarifs hors carénage sur remorque, si et seulement si la facture, bien sûr, et le paiement sont au nom du professionnel. Alors, Petit focus sur les dépenses de personnel du port. La baisse des charges de personnel est justifiée par un départ à la retraite d'un agent de catégorie B, une mutation d'un agent de catégorie B et un agent placé en longue maladie de catégorie C. Donc, dépenses de personnel, on a une évolution de moins 11,87%. 2019, 870 000 euros, 901 et en 2020, 767 000 euros de prévu. La section d'investissement pour le port, en 2020, les recettes d'investissement s'établissent à 1 922 554 euros, proposant donc une augmentation de 99,37%. Par rapport au budget primitif 2019, ça c'est bien sûr avec les prévisions du dragage. Le PPI du budget du port de Carnon s'élève à 3 380 000 euros, lissé sur 2020-2025, dont 1 922 550 000 euros est fléché sur l'exercice 2020, équilibré avec les recettes. Les grands projets, quels sont-ils? La reconstruction de la capitainerie et ses abords permettant leur mise en accessibilité pour un montant de 1,9 million hors taxe. La réfection des quais pour un montant estimé à 700 000 euros hors taxe. La mise en conformité de la station d'avitaillement. Et la démolition et reconstruction des AOT pour un montant total estimé à 1,3 million d'euros hors taxe. Les perspectives en fonctionnement. Le plan pluriannuel de fonctionnement 2020-2022. Donc là, on a pour 2020 des dépenses de fonctionnement qui sont chiffrées à 723 786 euros. Pour 2021, 1 147 072 et 2022, 547 571 euros. On le voit, hein, les dépenses de fonctionnement du port, c'est le dragage qui constitue la plus grosse partie du budget, bien sûr. Donc, comment elle se constitue? Quand sur 2019, 2 418 433, subvention de la région, les études, 725 529, subvention d'État, 725 529, reprise pour provision, 1 256 542 en autofinancement, puisqu'il n'y a pas de prêt pour d'emprunt pour le dragage. Alors, au niveau du plan pluriannuel d'investissement, prévisionnel 2020-2025, montant total de l'opération 1 900 000. Et après, vous avez dans le tableau la répartition selon les années. Ça, c'est pour la reconstruction de la capitainerie. Pour la réfection des quais capitainerie, montant total de l'opération 700 000 euros. Ce sera réalisé sur 2 ans, 2020-2021. Là, il y aura un emprunt, donc autofinancement de 130 000 et un emprunt de 470 000 euros. Déconstruction, reconstruction des AOT et ses abords, montant total de l'opération 1 300 000, autofinancement 570 000 et un emprunt de 700
000. Excusez-moi, juste une petite question. Dans le plan de restructuration de Carnon, vous ne parlez pas de l'ancien club de voile, des bâtiments qui est après de l'autre côté de la route. Vous voyez, c'est le long du pont.
La maison jouée?
Oui. Vous n'en parlez pas, qu'est-ce que vous allez comme projet dessus?
Il y a une étude qui est en cours pour savoir, au regard du PLU, la faisabilité par rapport à la submersion marine et par rapport au parking. On a des contraintes qui sont assez fortes. Il est possible qu'on ne soit pas habilité à l'étendre comme peut-être le préconiserait l'étude sur le tourisme qui militerait justement pour une offre en termes de logement. Donc on est en train de vérifier que c'est possible ou pas possible. Voilà.
Merci. Alors, j'en ai terminé avec la présentation.
La parole est à...
Si vous avez des questions.
aux différents intervenants par rapport à ce qu'a exposé Mme Favier. Monsieur Bourguet,
oui. Si je veux bien prendre la parole. Alors, d'abord, je voudrais mettre un petit bémol à ce que vous avez dit au début, parce que vous avez dit finalement on a réussi à contenir la baisse de la DGF, etc., etc. Il faudrait quand même rappeler que ici à Moguio, ce sont les contribuables qui ont payé, avec une augmentation de la fiscalité de 14% sur le mandat et de 27% sur les deux mandats. Donc c'est bien le contribuable melgorien qui est passé à la caisse. Donc il ne faudrait pas oublier de le préciser. Ce n'est pas dans la gestion. Ensuite, bon voilà, vous nous laissez une gestion saine, oui.
Comment vous nous laissez? Ça veut dire quoi, vous nous laissez? J'ai pas compris, monsieur Bourguet.
C'est pas grave.
Je sens que vous pratiquez l'humour. C'est bien. Montez en puissance.
On est en fin de mandat, quand même.
C'est la période de Noël, c'est bien.
On peut dire qu'on est en fin de mandat, quand même.
Oui. Vous voilà. Nous laissez. J'aime bien la terminologie. Vous savez, j'aime bien les subtilités de la langue française.
Très bien. Donc, le taux d'épargne, il y a une baisse très significative du taux d'épargne. Le fonds de roulement, on l'a vu, il est épuisé. Et à ça, il faut rajouter... À ça, il faut rajouter pour 2020 et 2021 la vente du patrimoine. Moi, j'estime que quand on vend le patrimoine, on ne s'enrichit pas non plus. Voilà, donc je pense que quand même, c'est important de montrer ces choses-là. Pour ce qui est du PPI... Alors, je note, je suis content de voir dans le PPI 20 000 euros pour l'étude pour les murs anti-bruit. Donc, je me dis que peut-être que vous avez fléchi votre position sur ce dossier.
Elle n'a pas changé.
N'a pas changé, bon, très bien. Mais bon, ça fait quand même...
J'avance sans faire de bruit.
Ça fait quand même 8 ans, ça fait quand même 7 ou 8 ans que ce dossier est demandé. C'est bien que les études arrivent au bout de 7 ou 8 ans. C'est très bien. J'espère qu'un de mes collègues qui se dit être votre futur associé et qui avait titré le mur de la honte dans la Gazette reviendra sur sa position. Puis je vois dans le PPI quand même un des plus gros investissements pour les 2-3 ans à venir, c'est le groupe scolaire à la Fonde de Moguio. Donc voilà, si c'est les projets les plus importants pour l'avenir, c'est un peu dommage. Bien sûr, si vous finissez la Fonde de Moguio, il faudra faire un groupe scolaire. Mais je pense que ce n'était pas à nous de payer le groupe scolaire, que c'était au promoteur immobilier de le payer s'il fallait refaire un groupe scolaire. Pour ce qui est du PPI du port de Carnon, bon, vous le savez, il y a une grosse polémique sur la capitainerie. Donc j'espère que ce dossier est contesté notamment par les usagers du port, vous le savez qu'ils ont fait un recours. Voilà, donc c'est un des plus gros sujets d'investissement, qui est la démolition et la reconstruction de la capitainerie. Quand vous parlez de la station de ravitaillement, je voulais savoir si c'est parce que vous démolissez la capitainerie que vous êtes obligé de refaire la station de ravitaillement, ou si c'est parce que c'était obligé de la refaire.
Je vous répondrai.
Voilà. Et après, bon, voilà, je voulais juste poser une question un peu à la marge par rapport à l'avenue Jean Moulin. Pourquoi avoir abattu les platanes? Est-ce que c'était indispensable? Est-ce que c'était...
Bon, je vous donne un petit peu les grandes lignes. J'observe que vous n'avez toujours pas intégré le principe de l'école qui est... la régénération de notre ville et l'admission de nouvelles populations que la Fonde de Moguio permet de faire à des prix qui battent toute concurrence, à 515 euros pour les plus riches, à 480 pour les moins riches, alors que les prix publics, les prix privés sont à 600, 700 et même 800 euros, et que je suis moi très heureux de pouvoir contribuer à une œuvre qu'ont commencé nos prédécesseurs, celle de l'école publique, dont Prévert est aujourd'hui l'un des symboles, où justement, on peut, grâce au renouvellement des populations, avoir un village qui vit et pas un village qui meurt. L'avenue Jean Moulin, puisqu'on en parle, alors, quand vous parlez des promoteurs, les promoteurs ont des lots, mais tout est orchestrée par la SCPL, laquelle a imposé des prix d'entrée, des prix de sortie, M. Mourguet. Ça veut dire que une personne qui achète un macrolo n'a pas le droit de vendre au-dessus d'un certain seuil. C'est-à-dire, c'est 3 000 euros pour le logement abordable et 3 800 euros, par exemple, pour le logement, ou 3 900 pour le logement pour les plus aisés. Alors que d'autres prix se pratiquent, et vous le savez très bien. Bon. Donc, vous le savez, le bilan de l'opération a prévu de payer une grande partie de l'école, comme c'est le cas quand il y a des programmes d'aménagement d'ensemble où les équipements publics sont financés par les gens qui viennent s'installer. Et les gens qui viennent s'installer aujourd'hui, dans la proportion de 1 sur 2, sont des gens qui sont aidés par l'autre moitié. Entre les 30% de logements locatifs aidés, logements sociaux, et les 15% de logements abordables, 45% des gens viennent s'installer à Mouguio, alors que dans d'autres conditions, ils ne pourraient pas. À portée de la fonte de Mouguio, il y a l'avenue Jean Moulin. L'avenue Jean Moulin, vous le savez, est requalifiée, ça dure, c'est vrai, ce serait mieux si c'était plus rapide. Néanmoins, ces arbres, qui sont là depuis très longtemps, empêchaient l'élargissement de la piste cyclable, l'établissement de la piste cyclable, empêchaient l'écoulement des eaux. En concertation avec le département, en préconsultation des services des hydrauliciens et après information et concertation de la population, sachez que toutes les fois qu'on va abattre un platane des riverains, on n'a pas demandé aux gens de Père Leblanc leur avis, pour chaque platane qui sera abattu, 3 tilleuls seront plantés. Pour ce qui concerne ce que vous appelez la polémique sur la capitainerie, sachez que la construction, la déconstruction et la reconstruction ont été décidées en 2016, qu'elle n'est pas nouvelle, que c'est l'approche de certaines échéances qui ravivent peut-être certaines ardeurs, et que vous qui êtes très soucieux de l'argent public, sachez que le budget du port est un budget annexe, et que ni de près ni de loin, vous ne payerez un centime sur ce qui sera fait. Et ce qui sera fait, c'est quelque chose qui va coûter moins cher que ce qui aurait pu être fait. On a besoin de locaux plus grands, on a besoin de se mettre en accord avec l'accessibilité, et on a besoin également, en termes de transition énergétique, d'avoir autre chose qu'une passoire comme emblème de la ville de Carnot. Bien. Ensuite, concernant les quais. Les quais, eh bien, la station d'avitaillement n'a rien à voir. Et si les quais étaient refaits sans toucher, sans démolir la station d'aujourd'hui, 400 000 euros supplémentaires seraient nécessaires. Ça multiplierait la facture, pas par deux, mais même par 30 à 40% supplémentaires. Donc, ça n'est pas pour ça que la décision a été prise, mais sachez en tout cas que le fait de déconstruire et de reconstruire la capitainerie permettra dans l'entre-deux de refaire les quais qui se sont affaissés et de refaire les travaux sur la station d'avitaillement. Voilà. Voilà les éléments que je voulais vous apporter de manière très synthétique et très véridique. D'autres interventions ?
Juste, si je peux me permettre, sur les points. Alors, moi, c'est technique. Hein. Vous dites qu'on n'a pas maîtrisé la DGF. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Elle nous est imposée. Donc, la baisse de la DGF, on a fait avec. Par contre, on a dû, nous, maîtriser nos dépenses en face. Vous dites que nous avons augmenté nos impôts de 14% sur la totalité du mandat. Ils ont été augmentés en 2015 de 5%. Ça, c'est vérifiable, ce sont les chiffres.
Je n'ai pas dit que vous avez augmenté. J'ai dit c'est le contribuable melbourien qui a payé. C'est pas la même chose. Il y a une partie qui a été augmentée par la base, parce que la base a augmenté. Et vous avez augmenté d'une autre partie. En gros, la moitié, c'est vous qui l'avez augmenté, l'autre moitié, c'est l'État qui l'a augmenté.
Alors, c'est bien compris.
Mais voilà. Donc voilà, mais je le précise.
Les taux ont été augmentés.
J'ai été très précis.
Par plus de 5% en 2015.
Mais quand la base, elle augmente plus vite que le coût de la vie, on peut aussi baisser le taux si on veut. Si on ne veut pas que la pression fiscale pèse sur le contribuable. J'ai juste dit que c'est le contribuable qui a payé.
Au niveau du fonds de roulement, vous nous reprochez aujourd'hui que le fonds de roulement soit plus faible. Mais heureusement, M. Bourguet, parce que s'il n'était pas faible, ça voudrait dire qu'on a trop prélevé aux contribuables. Ça voudrait dire que nos impôts ont été trop élevés et que ça n'a pas été justifié. Le fonds de roulement, c'est une gestion impeccable. Ça veut dire que l'anticipation a été bonne et surtout qu'avec, on a pu réaliser, on n'a pas trop prélevé d'impôts et on ne s'est pas trop endetté. Et ça a pu être, tous les équipements et tous nos investissements ont pu être réalisés. C'est difficile pour moi aujourd'hui d'avoir entendu pendant 5 ans qu'on avait un fonds de roulement trop important. Et pour s'entendre aujourd'hui, le fonds de roulement... Non, il faut rester honnête avec...
Non, mais c'est pour dire quand même que voilà, il y a eu une pression fiscale sur le contribuable, mais
rien.
Il faut pas le nier, voilà. Non, mais voilà. Et ensuite, juste une petite parenthèse. Bon, on va en revenir au début. C'est vrai qu'on est en fin de mandat, mais de lancer un emprunt de 3,5 millions à 2 mois et demi des élections, alors qu'on n'a pas les mêmes choix, vous et nous, pour la mandature future, les projets futurs, je trouve que c'est pas très fair play. Voilà. On aurait pu attendre le milieu de l'année prochaine pour lancer des emprunts nouveaux. Voilà, c'est une question purement politique, hein, purement politicienne, même si vous voulez.
Monsieur Bourguet, ici nous sommes un conseil municipal, on n'est pas dans la course à l'échalote. Et
moi non plus.
La ville de Moguio-Carnon mérite une autre approche que celle qui serait ponctuelle de l'immédiateté d'une échéance. Elle doit se développer sur des années. C'est une vision qui est proposée. Vous auriez pu nous remercier justement d'avoir assaini et contribuer à tenir, à maintenir, à maîtriser le budget pour nous permettre justement sur de bonnes bases de porter la ville de demain. La ville de demain, elle n'est pas celle d'une personne. Moi je dis qu'elle est au bénéfice de tous les citoyens, avec tous ceux qui veulent y contribuer. Et cette ville de demain, elle n'est pas tributaire d'un arbitrage, fut-il un arbitrage tous les 6 ans. Les emprunts que nous avons sont des emprunts qui engagent sur des fois 20 ans, 30 ans, 40 ans. Sans les emprunts, cette vision du développement de l'accompagnement de la ville ne serait pas possible. Et notre responsabilité d'élu est justement, vous qui êtes si attachés, tout comme moi, au service public, le service public, lui, il est intemporel. Il doit continuer à devoir le défendre. Et il ne doit pas être entaché, ralenti, maltraité par rapport à des enjeux électoraux où les candidats ne sauraient pas s'élever à la hauteur des enjeux du développement de la ville. Vous le savez très bien. Les travaux coûtent énormément cher. Nous sommes dans une programmation avec une vision de développement. Les canonnés nous ont souvent, on a souvent entendu, ces personnes disent on est oublié de ci, on est oublié de là. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est proposé. Ça n'a pas été proposé le dernier trimestre du mandat. C'est un travail qui s'est fait avec une concertation, on a discuté, on a corrigé la copie, on a rediscuté, et ça sera encore amendé, ça évoluera encore. Bien sûr que ça évoluera. Le PPI évoluera. Bon, cette vision, ne la reprochez pas à une équipe qui, justement, prépare l'avenir. C'est tout. D'autres remarques, M. Capelletti?
Alors, c'est ma séance favorite de ZOB parce que c'est. Parce que je passe, vous le savez, une grande partie de mon temps à former, à intervenir sur le sujet, le contrôle de gestion budgétaire, dans les collectivités. Et puis les entreprises privées par ailleurs, et c'est un autre débat. Et puis, alors j'écris aussi beaucoup sur le sujet, et c'est vrai que je suis heureux de voir que je suis lu. Merci Daniel de m'avoir cité.
Tu as écrit aussi qu'il n'y avait pas eu de pression fiscale sur le contribuable mémorial.
Alors pour qui sait lire.
Et que c'est pour ça que tu allais rejoindre M. Bourrel.
Alors pour qui sait lire un budget. Il y a effectivement tout a été résumé par Caroline Favier. On peut dire que c'est un budget maîtrisé. Bon, je ne vais pas revenir sur les différents indicateurs qui le montrent. Donc effectivement, le fonds de roulement, le but, surtout en période de taux d'intérêt bas, c'est qu'il soit le plus bas possible. Et c'est effectivement un signe de bonne gestion. La fiscalité, à partir du moment où la taxe d'habitation, il ne faut pas oublier ce qui se passe au niveau national, est supprimée et réduite, bah du coup. mettre dans un programme la baisse des impôts locaux devient caduque, voire même dangereux. Je rappelle que cette taxe n'existera plus pour tout le monde d'ici 2022. Et enfin, je m'arrête juste sur ce dernier indicateur. Effectivement, en période de taux d'intérêt bas, c'est une très bonne politique que de se ménager une capacité d'endettement et d'investissement. Donc, le résultat de tout ça, effectivement, c'est de constater que la commune est très attractive, certains diraient même trop attractive, quand on voit des villas. Mais moi, je trouve ça très bien. Enfin, ce qu'il faut, effectivement, maintenant, c'est, à travers ce budget, c'est accompagner ce développement de façon raisonnable, plutôt que de, effectivement, s'orienter vers un sous-développement déraisonnable, bien entendu. Quant au, effectivement, soi-disant vente de bijoux de famille, là encore, moi c'est ce que je répète et ce que je dis dans mes interventions et mes conseils en étant écouté sur le sujet, vendre des bijoux de famille à la famille, par exemple à la SPEL, c'est faire d'une pierre deux coups en fait. C'est-à-dire en réalité on garde son patrimoine et on encaisse l'argent de la vente. Et en période de taux d'intérêt bas, une nouvelle fois, c'est de la très bonne gestion. Donc je comprends que vous soyez heureuse. Monsieur Prodé.
Oh. Ils sont cons, vos trucs. Pour revenir sur l'analyse de Monsieur Bourguet, sur l'intérêt de faire payer l'école à l'opération Fourneau-Mourion. Moi, je pense que c'est une mauvaise approche. Une mauvaise approche parce que ce qu'on essaye d'avoir en politique publique, c'est d'avoir un prix pour l'acquéreur final le plus bas possible. Et vous avez dit que les promoteurs pratiqueraient des prix capés. On a pu le négocier avec eux parce qu'on n'avait pas chargé plus que ça l'opération. Sinon, c'était innégociable. Et pour avoir échangé avec la SPLA sur les bailleurs sociaux, pour pouvoir les faire entrer, il fallait que les points d'équilibre, on ait passé ric-rac pour les faire entrer, pour qu'ils puissent construire. Donc si on avait surchargé l'opération au fond de Mogion en faisant porter l'entièreté de l'école, on n'aurait pas pu avoir de résultats efficaces pour l'accessibilité. Et donc, pour le dire différemment, les plus pauvres les clients les plus pauvres n'auraient pas pu acheter, on serait retrouvé vraiment sur une opération qu'on ne voulait pas faire. Deuxième élément en termes budgétaires. C'est normal que soit la solidarité communale qui finance les écoles. Et c'est normal en plus qu'on le fasse sur de la dette. Puisqu'en fait, ceux qui vont venir s'installer là, ils vont financer une école, ça fonctionne pendant 30 ans, donc c'est normal qu'on le mette sur la dette et que tout le monde concourt à ça. Donc moi, je trouve que c'est de la bonne gestion. Et que si on l'avait fait porter par la SPL, ça aurait été une très mauvaise opération et ça n'aurait pas été de la justice sociale. Donc moi, je trouve que le point d'équilibre est le bon.
C'est quand même porté à 50% par la SAC.
Oui, oui, le point d'équilibre est bon.
C'est pas zéro.
Le point d'équilibre à 50-50 est un bon point d'équilibre. Et le faire porter à 100%, ça aurait pas été. On n'aurait pas pu rentrer les bailleurs sociaux. Je suis sûr, ils passaient fin. Je vais revenir moi sur un autre point qui n'a peut-être pas été abordé, et comme M. Tricoire n'est pas là, je voudrais lui rendre hommage à son action et à l'action des services. On a eu une commission DRH, gestion des ressources humaines, il y a un trimestre à peu près, où on a pu montrer qu'il y avait eu des gains de productivité. Parce que dans le fonctionnement, dans la courbe, on n'a pas parlé des gains. On n'a pas parlé des gains de productivité qui ont été faits pendant le mandat. Ces gains de productivité, ils ont en plus été reversés dans du service public. Puisque si, si mes souvenirs sont bons, sur l'enlèvement des encombrants, qui était une fonction, de l'agglomération, on est en train de le rapatrier et on voit que c'est un point sensible. C'est un point qui agace, ça, le fait qu'il y ait des encombrants. Il y a de mauvaises habitudes civiques. Hein. Je dis à ceux qui n'aiment pas payer des impôts, vérifions chacun qu'il n'y ait pas d'encombrants, parce qu'on a des mauvaises pratiques civiques, il faut le traiter. Mais le fait qu'on le récupère et on le manage avec les espaces verts, donc là, ça fait plus de services publics, parce que les encombrants seront mieux surveillés et mieux enlevés. Deuxième point qu'il faut assumer dans l'augmentation normale du fonctionnement, c'est l'embauche des 6 policiers municipaux. Parce que ça, c'est quelque chose, tactiquement, c'est quelque chose de très important. Autant on a pu développer une stratégie de caméra, autant ces 6 policiers municipaux sont nécessaires, ils ont une présence, il faut monter en puissance, et là on va être en année de plein exercice. Donc on a un service public qui est avancé, qui est poussé par des gains de productivité faits par l'ensemble de nos fonctionnaires qui ont joué le jeu. Donc là-dessus, il faut que Monsieur le Directeur Général des Services transmette là-dessus notre satisfaction à l'ensemble des services. Il y a eu un effort qui a été fait, qui a été consenti par l'ensemble des fonctionnaires. Sur la gestion du matelas. Alors, je pense que monsieur, que c'est, ça n'a jamais été trop le sujet de monsieur Bourguet pendant le mandat, la gestion du fine de la dépense publique, comme ça, c'était pas assez. Moi, c'est quelque chose qui était central pour moi. Je n'ai jamais entendu dire que c'était que la bonne gestion dans la délicatesse de ce sujet-là, c'était quelque chose qui lui importait. Je pense, moi, que là, on se retrouve avec un plan pluriannuel d'investissement qui porte ses fruits, ce qui a été mis en place en début de mandat. Et donc on a une programmation régulière, visible, qui est débattue démocratiquement, et ça donne une scansion qui fonctionne bien, et on peut se retrouver avoir une gestion de ces fonds-là qui soit plus vertueuse. Je trouve que c'est très important, ça, parce que ça permet d'avoir un ratio, moi qui suis keynésien, hein, c'est pour ça que je disais politiquement que M. Bourguet, qui n'est pas forcément keynésien à la base, c'est pas moi qui suis keynésien, c'est important qu'il y ait un ratio entre ce qu'on prélève en impôts et ce qu'on restitue en investissement, puisque ça fait fonctionner, ça fait tourner les entreprises locales. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose de très, très, très vertueux. Et le fait qu'il y ait une corrélation entre le budget et ce qui est dépensé, on arrive là à avoir un point d'équilibre très, très intéressant. Et dernière question que je voudrais poser, c'est super important. J'aimerais bien, moi, avoir des retours, parce que mon petit doigt me dit que les retours sont excellents, sur la gratuité de la médiathèque. Parce que ça aussi, c'est une orientation budgétaire forte. Mais le fait que tout le monde puisse y accéder, soit ça a marché, soit ça n'a pas marché. Et ça, c'est une politique, il faut la questionner. Compris ?
Alors, je suis désolée, je n'ai pas les chiffres, mais je voulais rejoindre au compte-rendu. On a effectivement obtenu ce qu'on espérait, c'est-à-dire une augmentation de la fréquentation des médiathèques, très marquée à Carmont notamment, avec des jeunes qui investissent désormais notre médiathèque, et donc le public cible qui était le nôtre qui est atteint. Donc, je vous ferai part de l'ensemble des données chiffrées dans le cadre du compte-rendu.
Merci, Sophie, merci, Monsieur Bré, merci,
Monsieur le maire, madame. Je ne reviendrai pas sur les chiffres que vous avez avancés, parce que j'ai passé les compétences là-dessus pour pouvoir confirmer ou vérifier. Je m'en tiendrai là. Par contre, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est au niveau de la création de l'école. Donc, on va créer une école, c'est du primaire, d'accord ? Or, les gens qui vont venir habiter à Mouvio n'auront pas tous que des enfants qu'en primaire. Il y aura des enfants, des adolescents, peut-être plus. Est-ce que vous avez prévu dans le projet, dans ce projet-là, l'agrandissement du collège, voire peut-être la création d'un lycée?
Alors, dans primaire, il y a en fait deux écoles. L'école primaire, c'est l'école élémentaire et l'école maternelle. Effectivement, il est du ressort de la commune de satisfaire à l'accueil de ses enfants. Pour ce qui est du collège, c'est le département. Madame Crampagne et moi-même assistons depuis le début du mandat aux commissions, pas de régulation, mais d'attribution ou de création des collèges, où nous n'avons pas manqué de signaler l'augmentation de la population, notamment celle de la ville de Saint-Aunès, qui alimente également le collège, puisqu'aujourd'hui nous n'avons que les élèves de Saint-Aunès et de Mouvio, et que les élèves de Saint-Aunès vont aller dans un nombre croissant, puisqu'on a des programmes d'investissement et d'agrandissement de la ville qui sont presque équivalents à la fonds de Mouvio. Énorme. Donc pour le moment, le département a dit que c'était bon, puisque la capacité du collège n'est pas encore arrivée à son plein rendement, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Nous, on travaille bien sûr en coordination, et le département fera, je pense que dans les 3-4 années qui viennent, il n'y a pas, j'en ai parlé avec Renaud Calva lors de la dernière réunion, ils ne sont pas inquiets sur les effectifs. Voilà. Je précise aussi que les gens qui vont à la fond de Mouvio sont aussi des Melgoriens ou des Carnonnais. C'est-à-dire ce sont des gens qui habitent déjà sur la commune et qui vont dans ce qu'on appelle le desserrement urbain. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux générations ou dans une même génération, tout le monde qui vit sous le même toit, il y a parfois des séparations, il y a parfois des éléments dans la vie qui font que là où on avait 5 personnes dans une maison, on a des fois 2 maisons qui habitent l'une d'eux lors d'entre 3 personnes. Voilà. Donc ce n'est pas forcément de nouvelles naissances. Hein? Voilà. Et M. Frappoli, puisque je me permets de vous dire simplement, ce n'est pas le sujet, mais ça sera fait comme ça. Je suis sur votre site, le 7 août, vous avez dit sur votre site par rapport au centre de sécurité, nous venons de recevoir ce matin la réponse de la mairie concernant notre demande de visite au fonctionnement du CSU en date du 6 juillet dernier. Le maire accepte cette visite mais nous refuse l'accès aux images en temps réel. Renseignement pris, dit-il, auprès du référent gendarmerie en matière de sécurité. En tant qu'ancien policier, nous avons de notre côté contacté les référents police et ceux-ci n'ont pas la même approche du problème, ainsi de tatatitatata. Donc tout à l'heure, quand vous me disiez que vous n'aviez pas été invité, Monsieur Frappoli, je vous rafraîchis la mémoire, c'est votre site.
Voilà. Vous ne marquez pas là-dessus que j'ai été invité, monsieur.
Voilà.
Attendez, il faut dire les choses comme elles sont.
Tournerez du tout, je le tiens à votre disposition.
C'est sur les réseaux sociaux, tout le monde peut le lire, monsieur, c'est pas le sou.
Bien sûr.
Mais je tiens là à la réponse que vous m'avez faite, monsieur. Et vous vous préférez de ce gendarme, moi je vous réfère d'articles de loi et de règlement. Alors attendez, on va où là?
Allez. Chacun appréciera.
Mais oui, chacun appréciera, c'est évident.
Chacun appréciera. Sur le débat, non. Là-dessus, on parle plus.
Deux minutes. J'étais policier national, APJ à l'article 20 du Code de procédure pénale et fonction de l'officier de police judiciaire.
Très bien.
Alors, vous ne venez pas me chercher là-dessus.
Très bien. Bon. Très bien. Sur le budget, est-ce que vous avez, sur le débat d'orientation budgétaire, les interventions sont closes? Donc. Je vous remercie. Donc, on va passer au vote du DOB. Donc, je vous demande de vous exprimer favorablement, c'est ma demande, sur. Je vais essayer de recueillir votre approbation sur le débat d'orientation budgétaire, tel qu'il a été présenté sur la base du rapport d'orientation budgétaire, le ROB 2020, par Mme Favier. Qui est pour? Monsieur Claverie, il revient. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 2.
Alors le point numéro 2, il s'agit tout simplement des créances éteintes et créances admises en non-valeur sur 2019. Ça, c'est la demande du Trésor public. Donc les créances éteintes, on ne peut plus recouvrir. Les créances admises en non-valeur, la procédure continue. Donc au niveau des montants, créances éteintes, 10 760,32 €. Créances admises en non-valeur, 3 026,98 €. Il est donc demandé d'autoriser à admettre ces titres en créance irrécouvrable.
Merci. On passe au vote. Qui est contre ? S'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 3.
Ce sont les provisions pour risques, l'entreprise de provisions pour des créances douteuses. Vous savez que lorsqu'il existe des indices de difficulté de recouvrement ou d'une contestation sérieuse, eh bien, nous devons faire une provision. Et cette provision alors dépend de la durée des créances. Donc là, on vous demande d'autoriser une provision d'un montant de 13 800 €.
C'est pour récupérer les créances,
ça, non ? Non. Ça, c'est pour faire une provision quand vous commencez à avoir un doute sur des créances qui ne seront pas... Il y a un risque, on va dire, voilà.
Oui,
mais elles ne sont pas encore... c'était la délibération d'avant où là, c'est vraiment soit éteint, soit en non-valeur.
Oui.
Et là, on prévoit, on fait de la provision dès qu'il y a un risque. Comme une entreprise privée, d'ailleurs.
Provision pour risque.
Oui.
On passe au vote. Contre. Abstention.
Le point numéro 4, c'est la mise en place d'une autorisation de programme et crédit de paiement, le fameux APCP, pour le schéma directeur de Carnot. Donc, vous savez que ce schéma a vocation à définir la stratégie de développement de la station balnéaire de Carnot à moyen et long terme, sous la forme d'un plan directeur associé à des fiches d'action répondant aux enjeux suivants: concilier le développement touristique, la préservation du patrimoine naturel et la valorisation du cadre de vie, développer un tourisme des quatre saisons en lien avec les milieux humides et adapter les aménagements urbains et architecturaux au contexte écologie sensible. Donc ce projet d'aménagement a été confié à la SPL et on vous demande de bien vouloir le passer en APCP. La SPL se veillera au respect du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle et des délais. Alors, vous avez un tableau avec tout le détail alors, le document que vous aviez sur le bureau et le tableau avec les montants remis à jour. Donc, le montant crédit de paiement 6 746 954 €. Et après, vous avez le détail, ben, année par année jusqu'en 2024. Donc, on vous demande l'autorisation de bien vouloir mettre en place cette APCP.
Qui permet de bien prévoir. Qui compte ?
Là, je vais prendre la parole.
Ah, M. Bourguet.
Oui, donc, tout à l'heure, on a dit... qu'il y avait 6 millions d'investissements pour Carnot à travers ce schéma directeur. Alors effectivement, ce schéma directeur, d'abord, on ne devrait pas l'appeler schéma directeur de Carnot, mais on devrait l'appeler schéma directeur du centre de Carnot ou autour du port de Carnot. Donc c'est un schéma directeur qui n'a pas une vision globale de Carnot, qui ne tient pas compte ni de l'ouest ni de l'est. Donc pour moi, ce n'est pas le schéma directeur, c'est juste des aménagements autour du port. Et c'est un peu le sentiment qu'en ont aussi la plupart des carnonnais. Donc vous avez fait des ateliers, mais moi aussi j'ai fait des ateliers. Et donc moi, dans mes ateliers, je n'ai pas entendu la même chose que ce que vous avez pu entendre peut-être dans les vôtres. Donc il y a des choix d'investissement majeurs, comme ce fameux parking, ce parking plus l'esplanade 1 qui représente presque la moitié du budget, uniquement ces deux investissements très structurants, qui sont des choix vraiment de stratégie, de vision d'aménagement et de vie à Carnot. Voilà pourquoi je vais voter contre ce schéma directeur, et je pense que si on était courageux, on ferait une consultation citoyenne sur ce sujet, et on verrait qu'il n'a pas, je pense qu'il n'a pas l'approbation des habitants de Carnot. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet.
Sachez, M. Bourguet, qu'effectivement, le schéma directeur ne recouvre pas l'ensemble de la vision sur le temps qu'il faudra justement pour requalifier Carnon. Ça n'en est qu'une partie. Vous semblez ne pas avoir lu l'intérêt d'un parking à l'entrée de ville pour favoriser les mobilités, dégager le front de mer.
C'est tout lu.
Votre jugement vous appartient puisque vous en contestez
le choix. Monsieur le maire, j'ai tout lu.
Vous en, non, je dis, vous en contestez le choix.
Oui.
Cela vous appartient. Et la présentation que nous avons faite à Carnon, 12 septembre, a rassemblé une chambrée qui était inhabituellement fournie et dont les échos et même les rendus nous ont paru interpeller, je suis modeste, les Carnonais, dans le sens où, effectivement, pour la première fois, quelque chose s'était fait. Alors finalement, ce que vous dites, vous n'osez pas dire que c'est bien, puisque vous voulez proposer une concertation pour qu'il y en ait plus. Vous verrez ce que vous avez
à faire. Non, j'ose dire que c'est pas bien.
Avec
non,
10 millions, on n'arrive pas à couvrir une requalification qui a coûté des millions et des millions, où le port a été fait et l'urbanisme a contre-sens d'une mobilité ou d'une facilité, d'une lisibilité, même si la mission Racine, elle le mérite quand même de faire le port, d'aider Carnon à se développer. Bon, aujourd'hui, c'est la première fois depuis 40 ans que nous arrivons quand même avec un projet structurant dont certains aspects peuvent vous échapper, sous lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est le débat démocratique, il n'y a rien à dire à cela. Mais sachez qu'en tout cas, que c'est le début d'une opération qui a souvent été menée au profit du tourisme sur le Lido, au profit du réensemblement. On en a mis des millions. Et bien aujourd'hui, c'est pour les Carmonais. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit de nature à leur déplaire. Ils nous le diront dans 3 ou 4 mois.
Oui, tout à fait, nous le dirons.
Voilà. Très bien. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour que l'Assemblée progresse. Merci.
Le point numéro 5, c'est une décision modificative numéro 3 du budget principal de la commune. C'est juste un avenant pour les travaux effectués sur la cour d'école Mario Roustan, où on vous demande d'accepter de rajouter 20 000 euros.
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Le point numéro 6, c'est la mise en place d'un service de paiement en ligne PFIP. Donc, par rapport à l'e-administration, toutes les démarches en ligne, il a semblé assez normal d'arriver aussi à un paiement en ligne. Donc, c'est le site de paiement en ligne officiel de la DGFIP. Il faut savoir que ça coûte, c'est la DGFIP qui prend en charge les frais de fonctionnement de ce mode de paiement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux paiements possibles en ligne, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le paiement avec la carte bancaire, mais aussi le paiement par prélèvement sur le mode. Voilà. Donc on vous demande de bien vouloir accepter la mise en place de ce système de paiement dématérialisé. Et ça reste, si c'est important, ça reste facultatif aussi pour l'usager, c'est pas imposé. Donc la personne qui veut continuer à payer en espèces ou par chèque le peut toujours.
Avec la brouette. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Point numéro 7, indemnité de conseiller alloué au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur des communes.
C'est ça, c'est-à-dire que le comptable public peut nous fournir des prestations de conseil, d'assistance en matière budgétaire, économique, financière, et en contrepartie, il existe une indemnité. Donc cette indemnité correspond en 2019 à 839,76 euros pour le trésorier public, Madame Fernandez Delphine. Et on vous demande de bien vouloir accepter de mettre à nouveau 100% de cette rémunération, de cette prestation, on va dire, pour tous les conseils apportés avec bienveillance et beaucoup de disponibilité pour la commune.
Il y a bien entendu l'expertise, mais il y a aussi la présence aux commissions d'appel d'offres, où la présence de l'État et de l'expertise du comptable est précieuse, en tout cas
très utile, si ce n'est précieuse.
Voilà. Excusez-moi, c'est pas une fonctionnaire, ça.
Ah bah si, c'est le trésorier.
Aussi, si elle est fonctionnaire, pourquoi vous lui allouez une subvention? Bah, c'est vous qui payez la, c'est vous qui payez la prestation?
Oui, donc, c'est un conseil, tout à fait. C'est un...
Si elle est fonctionnaire, elle peut...
C'est prévu par la loi, ouais. Parce que c'est du conseil supplémentaire, si vous voulez. On la sollicite pour, bah, par exemple, être commissionnaire.
Monsieur Cassard m'a donné la réponse.
C'est prévu par la loi.
D'accord.
Il y a même un barré.
Ça n'empêche pas de...
Okay. Excusez-moi, madame Tardy.
Mais je vous en prie. J'étais contente de vous répondre, mais
c'est monsieur Paproli, il avait peur que ta joie déborde... Et que tu distribues 839,76
euros. C'est pas prévu. Alors, point numéro 8.
Et on vote quand même. Qui contre? Qui s'abstient? Merci pour madame Fernandez. Approbation des tarifs communaux.
Donc, alors ça, vous avez eu tout le détail en annexe par rapport à ces tarifs. Je ne vais pas les reprendre un par un parce que le tableau est énorme, donc à part s'il y a des questions.
Non, c'est juste une réflexion, hein, parce que ça revient un peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à la fiscalité. On a quand même taxé un peu les associations avec ces changements de tarifs communaux qu'on a pratiqués sur les locations des salles au fil de ces dernières années. Donc je le déplore, comme je l'ai déjà déploré à d'autres conseils municipaux. Je regrette aussi qu'on ait installé cette taxe sur les écrans de télévision qui sont installés pour faire de l'animation dans les centres-villes par les bistrots. Voilà, donc je voterai contre les tarifs communaux pour plusieurs raisons, dont celle-ci.
Dans le cadre, merci pour votre intervention, dans le cadre de la transparence des aides qui sont consenties aux associations, toutes les fois qu'une salle est mise à disposition ou qu'un service est mis à disposition, il existe dans la convention, il est précisé, outre la somme de fonctionnement qui est allouée aux associations et qui dépasse les 500 000 euros tous les ans, toutes associations confondues quand même, je précise qu'il y a ce qu'on appelle l'évaluation du produit supplétif que représente la mise à disposition de la salle, du personnel, le montage ou le démontage. Et que aujourd'hui, avec la construction d'une maison des associations qui sera inaugurée d'ici quelques semaines, je pense que votre appréciation, M. Bourguet, est bien sévère en disant qu'on taxe les associations, parce que c'est de l'argent public qui est redistribué. Il est redistribué sur des critères qui favorisent les associations qui encadrent des jeunes, qui forment des jeunes, ou des associations qui aident à l'intégration et au handicap. Et il nous semble quand même que la politique partenariale qui est faite avec le monde associatif à Mouguiou, si on a autant de bénévoles, si on a autant d'associations, on en a 280 ? Combien ? 250, merci. On a quand même 250 associations, et le monde qui vient, et les stands qui sont tenus lors de cette manifestation, et surtout la richesse et l'occupation des salles, militent quand même pour le fait que les associations sont considérées. Et je remercie encore les bénévoles qui les animent. Donc, on passe au vote des tarifs communaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Fédération régionale des MJC, convention d'objectifs 2020. Toujours madame Favier qui distribue.
Ça aussi, c'est la loi, c'est comme ça. La rémunération de la directrice de la MJC de Mouguiou-Carnon et du poste de coordinatrice se fait par le versement d'une subvention à la Fédération régionale de MJC du Languedoc qui eux-mêmes après reversent à la directrice et à sa coordinatrice. Donc le montant pour 2020 s'élève à 120 810 euros et après avoir déduit la subvention de la FONJEP, qui est le Fonds de coopération de la jeunesse et d'éducation populaire. Donc on vous demande l'accord de verser cette subvention.
Compte tenu que nous avons une MJC qui est la deuxième de France, avec 2300 adhérents, et qu'elle a plutôt bien résisté à la concurrence privée de certaines activités, et qu'elle a su négocier le tournant. Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Le point numéro 10, c'est la gratuité exceptionnelle d'occupation consentie à la maison des assistances maternelles MAM Les Lucioles. Cette maison d'assistante maternelle a tout simplement changé de locaux et fait des travaux sur le mois d'août. Et du coup, nous demander un geste sur l'allocation du mois d'août. Si vous êtes d'accord, on leur fera la gratuité puisque c'est un mois où ils n'ont pas du tout reçu d'enfants. Les locaux ont été repris et que l'activité a repris au 2 septembre à nouveau.
En fait, c'est une forme de réfraction. On reconnaît le travail qui a été fait. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour les lucioles. Point 11.
Décision modificative numéro 2 du budget annexe du port de Carnon. Donc là, il s'agit, pareil, hein, pour solder la totalité des créances douteuses. Et en même temps, pour solder la totalité des créances qui permettraient aussi de clôturer la gestion de M. Souverville, qui est comptable, donc parti à la retraite en octobre 2019, il faudrait ajuster les écritures du budget annexe du port en admettant créances admises en non-valeur plus 15 800 euros. Le budget le permet, c'est une écriture budgétaire.
Passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Point 12.
Point 12, on vous demande de bien vouloir admettre en non-valeur 2019 les créances, enfin, certaines créances du port à hauteur de 26 809,10 € hors taxes. Toujours pareil, comme pour la commune, bien sûr, c'est le trésor public qui fait les comptes et qui nous demande de passer ces créances en non-valeur. Donc ce ne sont pas des créances éteintes, ce sont des créances en non-valeur, c'est-à-dire que ça les libère de leurs comptes, ça simplifie les comptes, mais par contre c'est toujours recouvrable.
Bien, c'est ce qui compte, l'espoir. Qui contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.
Et le point 13, comme on l'a fait pour la commune, eh bien c'est la reprise des provisions pour créances douteuses. Donc, pour ajuster les écritures comptables en matière d'admission en non-valeur, on vous propose la reprise d'une provision à hauteur de 15 800 euros au titre du budget 2019.
Je peux poser une petite question à la marge, parce qu'on n'a plus reparlé du restaurant La Passerelle, hein, pour savoir s'ils ont payé, s'ils n'ont pas payé, s'ils sont irrecouvrables.
Le restaurant La Passerelle a été mis en liquidation judiciaire, donc oui, et il sera utilisé pour la reconstruction de la capitainerie avec le transfert des locaux du port qui payera à la commune le loyer pendant toute la durée de l'occupation, ce qui nous laissera le temps de reconduire une affectation de type gastronomique ou artistique ou autre chose. Ça nous laissera le temps. Ça préservera la nouvelle équipe, le souhait de choisir, puisqu'on aura le temps de réfléchir. Comme je sais que vous êtes un poète, vous apprécierez.
J'apprécie.
Merci. Vous voyez, comme quoi, avec un peu d'humour, ça va mieux. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Provision pour dragage.
Le point numéro 14, donc, eh bien, c'est comme chaque année depuis 3 exercices, on fait une provision de 200 000 euros au titre de l'exercice 2019 pour le dragage qui, suite au projet de mutualisation, eh bien, le coût est estimé à 2 485 476 euros. Puisque le port de Carnon, Frontignan, Palavas, Les Flots, Pérol et Port Camargue ont conjointement répondu au lot numéro 1 de l'appel à projet, dragage mutualisé des ports avec gestion terrestre des sédiments en travaux publics terrestres. Donc il nous reste, ce sera la dernière provision de 200 000 euros pour financer en autofinancement le dragage. Sachant que ça commencera au deuxième semestre 2020.
C'est ça,
Il y a eu, un article dans le Midi Libre cette semaine où la commune de Pérol disait qu'elle allait draguer le canal chez elle. Et qu'elle avait obtenu l'autorisation de stocker les boues, de les faire sécher sur le quai. Voilà, je ne savais pas où on en était, nous, avec ce sujet.
Alors, pendant longtemps, nous n'avons pas eu les autorisations. Nous avons aujourd'hui les autorisations de la part de la DREAL, de la DDTM, d'aspirer les sédiments, de les faire transiter le long du canal et de les réessuyer sur des sous forme d'atelier au niveau de l'endroit où stationnent les forêts pendant l'été. Vous savez, voilà. À cet endroit, il y a une plateforme là où nous avons le droit de déposer pendant quelques semaines le temps que le réessuyage se fasse et ensuite il disparaît. Voilà. Et ça se fera hors saison estivale, c'est-à-dire que ça se fera au moment où ça, il n'y aura pas d'odeur, où ça n'incommodera pas, puisque ça se fera à l'hiver. Disons qu'au mois de mai, les dépôts, je me tourne vers Dominique Balsamon, les dépôts seraient réessuyés. Alors sachez que l'appel à projet a été mené en concertation avec le port de Pérol, de Frontignan, de la Grande Motte, et que la région, vous avez dû, et Port Camargue, pardon, vous avez dû entendre parler à un moment ou un autre, peut-être dans votre cercle très proche, la région donc consent des aides pour justement militer pour des solutions moins onéreuses que celles qui étaient le clapage à mer, et où on avait l'autorisation de clapper à 7. C'est pour ça que le temps parfois permet de trouver des solutions moins onéreuses. Et effectivement, l'article, alors le maire de Pérol, Jean-Pierre Ricot, a développé un danger que vous ne méconnaissez pas sur l'eutrophisation de l'étang et la nécessité de draguer. Une opération qui était faite par le passé par l'État, qui draguait l'étang. Et l'État ne le fait plus, c'est mieux que ce soit les collectivités qui le font, bien entendu, qui se désengagent. Et effectivement, le dragage de Carnon, du port de Carnon, non seulement permet aux plaisanciers d'avoir des bateaux qui ne talonnent pas et de naviguer correctement, mais également de participer à la bonne santé écologique de l'État. Voilà.
Et après ces bouts, on pourra les utiliser.
Non, ce ne sont pas des bouts, ce sont. Alors, il y a des filières d'élimination. En fonction des analyses, ce sont des sédiments qui peuvent être réutilisés pour faire des fonds de forme sur les chemins, ou parfois. Il y a peut-être, en termes de déchets ultimes, selon les teneurs en métaux lourds, en mercure, ou choses comme ça, ce qui n'a pas été le cas à Carnon jusqu'à présent, puisque quand même il y a un travail sanitaire qui est fait de manière continue depuis des années, pour éviter d'avoir une zone très polluée, les pollutions essentielles étant des pollutions de nature phosphorique qui viennent du côté de Marcillargues au niveau de l'étang. Voilà, c'est surtout ça qui aujourd'hui est repéré. Au niveau de la bonne santé écologique de l'État, que le CIMBO suit avec beaucoup d'attention. C'est Frappoli.
Oui, M. Bourrel, dans ce cadre-là, est-ce qu'il est possible de réfléchir à la réparation du SAS, du port de Carnot, entre le port et l'étang? Vous savez, celui qui est cassé depuis très longtemps et que le Conseil général ne veut pas réparer et que tout le monde se pose la question.
Je me trouve dans notre ami Bernard Ganivet qui va vous dire que. Il y a une étude qui est toujours dont j'attends moi les conclusions pour savoir si c'est une utilité reconnue ou pas. Bernard,
il y a une étude qui est faite depuis 2 ans maintenant. Elle va prendre la 3e année bientôt pour arriver aux finalités de. On ne sait pas exactement le pourquoi de la porte de Carnon. Bon, c'est sûr qu'elle a un effet, mais une chose sera comme l'Arlésienne, je pense. Hein. Je ne sais pas, je ne veux pas être pessimiste sur ce règle-là. J'espère que le se mettra en place, hein, parce qu'il y a les pros bon, qui veulent que le se mette en place, il y en a qui veulent que le soit déplacé. Là, c'est un autre débat, parce que ça va durer des années, vous le savez très bien et tout. Donc, comment ça se passe. Donc, moi, je pense une chose, c'est que la porte pour l'école fonctionne comme elle est, là où elle est pour le moment. En attendant, autre chose, mais ça fait déjà 3 ans, ça fait 3 ans qu'elle est au fond de l'eau. Bon, et on a levé, vous le savez tous, on en a parlé maintes fois, on est parlé au président du conseil. Départemental, on en a discuté, bon, alors ça renvoie la balle pour savoir quelle est la porte, elle est au conseil départemental, pour moi, elle n'est pas à la commune de Moglio, elle est sur la commune de Moglio, elle est propriété du conseil départemental. Le premier, on fait des travaux il y a 2 ans en arrière pour 70 000 €. Quand on fait des travaux sur quelque chose, on ne le fait pas quand ce n'est pas toi. Non. Ils ne l'ont jamais troqué la porte de Carnon, c'est jamais venu, parce qu'il y a un état des lieux, quand on donne quelque chose à une commune, normalement il y a un état des lieux qui est fait. Quelqu'un là, il n'a jamais été en délibération ni rien.
Je ne pense pas me tromper en disant que l'étude porte sur le caractère de remédiation que peut apporter ce porte sur l'état d'autorisation de l'État, indépendamment après de qui paiera quoi. Ça, c'est un autre sujet.
Pas terrible, il y a un autre débat aussi, c'est le débat sur le canon du roi d'assiette, c'est les passes. Donc là, c'est un autre, alors, on va parler maintenant, là, parce que ça, allongerait, là, c'est un débat qui est important, vraiment, c'est très important, aussi important que les portes, peut-être. Les passes qu'il y a actuellement sur le canal du Rhône à 7, qui sont, voilà, alors on se bat là-dessus depuis pas combien d'années, ça fait, donc peut-être qu'espérons qu'on y arrivera.
Je rappelle que j'ai écrit...
En ce moment, cette étude, elle est faite par les premières, par tout le monde, donc elle est pas sur le point d'être terminée, elle va se terminer en 2020, en principe. Théoriquement. Donc,
c'est une étude pluriannuelle, j'ai écrit au président du CIMBO, pour justement associer quand même l'ensemble des contributeurs du bassin versant à la résolution de ce désensablement, de cet enlèvement de sédiments, qui ne peut pas, qui ne saurait incomber éternellement aux usagers du port, quand bien même ils ne seraient pas des contributeurs malgré ni car on est. C'est pas normal. Voilà. Donc j'attends toujours la réponse.
Et pour un complément d'information, quand on parlait du dragage des étangs de l'or, bon, non, il s'est fait un chenal dans les années 85, un chenal qui n'avait servi à du tout parce que six mois après, c'était comblé. Et ça avait coûté à l'époque, je ne sais plus combien, une fortune. Il y en avait comblé, et il nous disait un retard de marée dans la forêt.
Il vaut mieux être comblé comme Madame Fabier que comblé comme. Voilà. Il y a comblé et comblé. Bon, mais c'est un comble qu'on n'y arrive pas. Merci pour ces explications. Voilà. Qui malheureusement ne débouche pas sur une solution immédiate. Voilà. Alors, provision pour dragage, je vous demande de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Castard, Bernard, c'est à toi.
Alors, le point numéro 15, qui est le réaménagement de l'îlot Prévert, autorisation de dépôt du permis de construire modificatif numéro 2. Les précédents permis, le modificatif numéro 1, prévoyaient que l'extension de l'école Prévert, enfin de l'ancienne école Prévert, pardon, l'extension était consacrée à l'établissement d'une salle de réunion. Afin d'optimiser l'occupation de ce bâtiment et suite à l'évolution des besoins, il est demandé dans ce permis est nécessaire, il est demandé de changer la salle de réunion de place et de la mettre dans le bâtiment et de consacrer l'extension à un réfectoire dédié au personnel de l'ASPL. Donc nous demandons l'autorisation de déposer ce permis puisque vous le savez, la réglementation l'exige.
Merci Bernard. Question ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Abstention.
Le point suivant, toujours relatif à l'îlot Prévert, approbation de la cession parcelle à titre onéreux de la parcelle cadastrée BZ264, l'eau volumétrique à la SPL et leur aménagement. En fait, il s'agit d'une vente qui s'opère sous forme de promesse synalagmatique entre la commune et la SPL pour lui vendre la moitié des locaux qu'elle va occuper après Vernon, c'est-à-dire 307 m² au prix de 735 000 euros, ce qui fait 2280 euros le mètre carré. Voilà, au regard de ce que comporte Prévert Sud, 704 mètres carrés, 90. Voilà. Donc, cette promesse est synalagmatique. Ouais. C'est un compromis. Hein. C'est un compromis, voilà. C'est un compromis dont la finalisation se fera à la fin des travaux qui devraient se faire au mois de juin. Voilà. Et je précise que ceux qui pensent qu'on vend le patrimoine, sachez que s'il était dans les intentions de la SPL de vendre ce patrimoine, la commune exercerait son droit de préemption avec révision de prix, c'est-à-dire que la commune reste maître du bien qu'elle met à disposition pour la somme de 730 000 euros. Voilà. On n'est pas. On ne lâche pas le bébé comme ça. Et je précise que la SPL est une société publique administrée par les élus que nous sommes, dans le cadre de l'intercommunalité, en partenariat avec la commune.
Oui, on peut dire, comme dit mon ami Laurent, que ça reste en famille, mais la SPL, c'est quand même une société de droit privé. Donc je ne sais pas si vous aurez des
études. Non, c'est public.
Non. Mais regardez votre droit. Voilà, faites le travail votre droit. Une SPL, c'est une société publique de droit privé. Je suis désolé. Donc, peu importe, 2300 euros le mètre carré, c'est vrai que c'est pas cher. Seulement, si eux, ils veulent le revendre 3000 euros le mètre carré ou 3500 euros le mètre carré, je ne sais pas si vous aurez des outils juridiques qui vous permettront.
Si.
Voilà.
Si.
Ça en verra.
On a le droit de préemption.
Oui, mais pas n'importe. Pas, mais je parle du prix. Le droit de préemption, oui. Mais...
En révision de prix, monsieur Bourdieu.
Le prix étant estimé par le service des domaines.
D'accord. Ça, c'est un tarif qui a été validé par les domaines.
Bien sûr. Ça garantit la gouvernance d'une erreur éventuelle de jugement en sous-estimant ou en surestimant le bien. C'est la raison pour laquelle, sur certaines ventes avec des propriétaires, il y a des fois des conflits, parce que le propriétaire pense que son bien vaut plus. Nous, on donne le prix du marché qui est fixé par les domaines. Voilà, ce n'est pas le prix du maire, ou le prix de l'adjoint de l'urbanisme, ou le prix des copains, c'est le prix des domaines. Et non, c'est bien ainsi.
C'est étonnant, parce que pour le coup, on est en dessous du marché. Bon, c'est pas grave. Par contre, je pense que vous avez un problème juridique, donc vous devriez le creuser quand même. Parce que, bon, vous dites, on a un avis favorable de la désaffection de l'école de la préfecture, on a un accord du rectorat. Mais tout ça, ça ne suffit pas pour que le domaine public immobilier devienne domaine privé communal. Il faut passer, à mon avis, pour déclasser ce bien, vu que c'était un bien qui était du domaine public parce qu'il avait une utilisation publique, à mon avis, vous serez obligé de passer par une enquête publique en demandant le déclassement du bien. Voilà, regardez juridiquement, mais je pense que juridiquement, vous n'avez pas le droit de procéder comme vous êtes en train de le faire. Des informations que j'ai aujourd'hui. Vous vérifierez. Là, vous devez faire une procédure de déclassement, de le passer du domaine public au domaine privé communal, et pour ça, il faut une enquête publique. Voilà, je vous lance la balle.
Et vous le dites maintenant, monsieur Bourguet ?
Eh bien oui. Ben, je vous le dis, c'est pas... Je vous l'envoie.
Très bien. Bien. Pas d'autres réactions ? Merci. Monsieur Pordeil.
Il semblerait qu'il y ait une ombre sur la SPL. Dans le tour de table de la SPL, il n'y a que des entités publiques.
Absolument.
Donc il n'y a pas de... J'entends parfois des raccourcis en ville en disant « Oh là là, c'est privé ».
Non. Et des capitaux publics.
Et des capitaux publics. Donc c'est un outil dont on s'est doté il y a longtemps pour avoir le bras armé de la commune puis de l'agglomération pour mener les opérations. C'est un outil, donc... Il a cette forme juridique-là, mais dans son conseil d'administration, il n'y a que les entités publiques.
Et alors, ça change rien ?
Ah ben si, non mais. Si, parce que M. Bourguet, de temps en temps, sous-entend que c'est une boîte à profit, et ainsi de suite. Non, c'est une boîte, c'est un endroit... Non,
ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit.
Oui, bon. Oui, mais moi, j'ai les oreilles en ville.
Donc, il y a les oreilles qui traînent.
Oui, oui, il vaut mieux que ce soit clarifié. Et même qu'il soit clarifié, c'est un outil qui sert à la puissance publique pour mener ses opérations.
Oui, mais c'est une société.
Je précise, M. Bourguet, vous connaissez beaucoup de sociétés qui ne reversent aucun dividende à leur sociétaire. Vous connaissez beaucoup de sociétés qui reversent le boni des opérations.
Je ne conteste pas. Moi, je n'ai jamais contesté la SPL, ni son bien fondé, ni son utilité. Jamais.
Je ne dis pas que vous le contestez.
Je n'en ai jamais fait.
Je n'ai pas dit ça. Je vous parle des bonnes pratiques. C'est un outil, pardonnez-moi pour le terme. En tout cas, c'est un système. C'est un outil d'organisation. Ce sont des personnes qui travaillent au bénéfice de la commune, pour la commune, avec une gouvernance communale et intercommunale. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une opération d'aménagement à Les Châtaigniers, à Saint-Aunès, c'est le maire Alain Hugues et son conseil municipal qui travaillent. Quand c'est la Grande Motte Villeport, c'est Stéphane Rossignol qui travaille avec son conseil municipal. Quand c'est nous qui travaillons sur Prévert ici, c'est nous. Quand c'est Mudaison sur le plan des aires, et vous demanderez au maire de Mudaison s'il n'est pas satisfait des prestations et du boni qui a été reversé, c'est la mairie de Mudaison qui commande. Donc, c'est un outil, en tout cas, j'allais dire, dont la maniabilité et l'éthique par rapport à ce que à ce qu'est une société privée, en fait, il redistribue, quand il y a du bénéfice, il le redistribue à l'ordonnateur. C'est-à-dire qu'il y a une prestation qui est tarifée à hauteur de 3%, 4%, 5%, sur le chiffre d'affaires, il y a une convention, ou un mandat, une assistance à maîtrise d'ouvrage, et ensuite, si l'opération s'est bien passée, et qu'il y a, par rapport aux ventes, un bilan qui est plus positif que ce qu'on pensait, eh bien, la reversion se fait au bénéfice de la commune et pas au bénéfice de la société qui ne se rétribue pas autrement qu'avec le travail qu'elle produit. C'est-à-dire que on l'a transformé de SEM en SPLA, de SPLA en SPL. Et ça de manière unanime. C'est-à-dire que ça s'est fait indépendamment des gouvernances de droite, de gauche et du milieu. Ça s'est fait, j'allais dire, dans l'esprit de ce qu'était le CIVOM au départ, dans l'esprit d'un intérêt communal, intercommunal, communal dans un premier temps, intercommunal dans un deuxième temps. Et demain, elle peut travailler, elle travaille pour la métropole avec Pérol, elle pourra travailler demain avec Lunel, elle peut travailler, elle peut être au service dans la prospection qu'elle a des chantiers ou des missions qu'elle peut avoir du fait de sa modification juridique, elle peut gérer demain un port, elle peut gérer l'office de tourisme, elle peut gérer le stationnement comme fait la Sartanime. Bon, elle a, si vous voulez, une évolution en fonction des besoins formulés par la gouvernance qui sont les élus. Aujourd'hui, il y a une gouvernance, demain, il y en aura une autre, il y aura d'autres élus. Et la SPL, elle, il y a quand même 14 salariés, il y en avait un il y a 20 ans, il y en a 14 aujourd'hui, c'est pas pour rien. Donc, comme disait M. Pradet, il ne la présentait pas comme le chat noir. Qui sur lequel il y a une suspicion, ça n'est pas, vous disiez, vous avez employé le mot privé, elle n'a rien de privé, elle est au service des publics, administrée par des publics avec des capitaux publics.
Voilà. Moi j'ai jamais, bon, ce que dit M. Pradet, ça n'engage que lui, donc le débat il n'est pas là. Le débat où on est aujourd'hui, c'est que moi personnellement, je trouve que la SPL n'a rien à faire dans l'espace Prévert, ni les autres entreprise où je ne sais pas qui vous allez louer d'autres bureaux là-bas.
À personne d'autre qu'elle.
Voilà. Donc moi j'estime que voilà, ça n'a rien à faire à Prévert. Donc en plus le vendre, ça veut dire que ça nous en démunit complètement. Voilà, moi le sujet il est là, il n'est pas ailleurs. J'ai jamais critiqué l'outil d'une SPL. Toutes les communes et les intercommunalités ont dit SPL et très bien, c'est parfait.
Vous êtes contre le principe. Voilà.
Je suis contre le principe de mettre la SPL à Prévert. Et de leur vendre en plus les locaux. Encore si on leur avait loué, on aurait pu se dire on peut les récupérer un jour. Mais en plus de leur vendre, ça, c'est un côté irréversible. Voilà. Moi, j'estime que Prévert devait rester un lieu de la citoyenneté, de la culture, de la vitalité associative de la commune. Pour moi, Prévert, c'était fait pour ça, c'était pas fait pour autre chose. Et la SPL n'a pas sa place là-bas. Voilà, c'est un choix.
Et vous pensez, je donne la parole à M. Capelletti, un mot simplement, vous pensez que dans la ville-centre, ce n'est pas tellement utile d'ancrer de manière définitive des institutions, des services au public?
Si,
vous pensez
bien sûr.
Vous pensez que c'est une mauvaise idée?
Non. Alors,
quand on achète, à mon avis, on a une intention différente que quand on loue.
Oui.
Monsieur Capé.
En fait, qui est le président du conseil d'administration de la SPEL?
Aujourd'hui, la maire de Montguillaume.
Ah. Donc je répète ce que j'ai dit, c'est-à-dire que quand on vend des bijoux de famille à la famille...
Ah ouais, ça reste en famille.
Parce que visiblement, ça ne rentre pas.
Mais arrête
je manque de pédagogie.
On ne parle pas de ça.
Mais moi, je te parle de ça. L'économie, ça t'intéresse un peu, quand même.
Oui, mais là, tu as l'air de ne pas trop comprendre l'économie dont on parle.
Ah ben, c'est pour ça que...
Désolé.
C'est toi qui ne comprends pas. Donc, ça reste dans la famille. La SPL est une société publique. Nous allons toucher 735 000 euros en conservant ce bien dans l'agglo, premièrement. Deuxièmement, effectivement, comme l'a dit Yvon Bourrel, c'est ne pas avoir non plus de conscience de l'importance de la ville-centre. Il faudrait aussi en parler de ça. Comme vous venez de le dire, effectivement, il est important, si on souhaite que la ville-centre, Mogio, maintenant, si on ne le souhaite pas, c'est un autre débat. Mais si on souhaite qu'elle rayonne, il faut effectivement en fait qu'elle fasse des opérations de ce type-là aussi.
Bien. Oui, on a déjà dépaysé le centre administratif de l'agglomération en grande partie. Donc, à un moment donné, il faut peut-être recaler les choses. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Cassin, point de service,
point numéro
avec 17. Le Palmaïso.
Sur la résidence Palmaïso, là vous avez l'habitude de ces opérations-là. Suite au certificat de conformité qui a été délivré pour cette résidence le 28 octobre 2019, il convient, comme pour toutes les résidences, que la commune entre dans son domaine public la voie qui dessert ce Palmaïso, la voie qui dessert et qui a en souterrain, pardon, les réseaux.
Merci Bernard. On passe au vote.
Oui, une petite réflexion, parce que il semblerait, après c'est à vérifier, j'en sais rien, que quand ils ont fait les travaux, ils ont lavé les bétonnières et tout ça dans les avaloirs du pluvial. Il semblerait que le pluvial est bouché suite à ces travaux. Donc je pense que c'est quand même au promoteur à vérifier le bon fonctionnement et à déboucher s'il le faut et à refaire les avaloirs s'il faut les refaire.
C'est quand même...
En premier, bon, ce sont les avaloirs, ce sont des grilles qui récupèrent, disons, des eaux de pluie par des chaussées drainantes. Il n'y a pas de conduite. C'est-à-dire que tout se fait, disons, par infiltration. Nous avons lancé un programme, disons, de confort, de réhabilitation, disons, de ce réseau en faisant un grand bassin de rétention. Et tous ces regards vont être repris avec une nouvelle technique. La technique, c'est-à-dire qu'en bas, il y avait ce qu'on appelle un écran qui bloquait le sable à tout colmaté. C'est pour ça que ça s'est récupéré, il ne l'occupe pas. Et là, maintenant, on est en train de le reprendre. Il n'y a pas de réseau.
D'accord. Voilà. Bien. Merci pour ces précisions. Passons au vote. Contre. Abstention. Merci. Toujours Bernard.
Le point numéro 18. Alors, le CIATO réalise en ce moment la restauration du cours d'eau Le Salaison. Pour permettre au CIATO de faire ses travaux, il est nécessaire que la commune vende les parcelles dont elle est propriétaire le long de ce cours d'eau. Ces parcelles représentent une superficie globale de 12 898 m² et la valeur a été estimée à 31 333,96 €, soit 2,43 € le mètre carré. Il vous est proposé d'approuver la cession de ces parcelles qui sont nécessaires à l'exploitation, notamment au passage des engins pour faire les travaux de réhabilitation de la rive Sylve.
Excusez-moi, ces terrains appartiennent à des parcelles.
À la commune. On ne voit pas les terrains. On n'est pas encore agent immobilier. On ne voit pas les terrains.
dans ce cadre, il y a toujours l'appréhension de la commune pour un élargissement. C'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. Mais effectivement, il y a ce qu'on appelle des négociateurs qui essayent d'avoir l'accord des propriétaires privés, voilà. Là, on ne demande que le domaine communal. On ne parle pas d'expropriation. Voilà. Au prix estimé par le domaine. Bon, je pense que c'est une bonne action qui va réguler et éviter certaines crues. Je précise que nous avons comme projet également l'encorvellement du pont de la 172 avec le tablier du pont qui sera refait par rapport à ces travaux hydrauliques. Qui seront faits par le département. Alors, le principe est acquis maintenant, mais il faut que ce soit dans le vote de l'Assemblée.
Moi, il y a eu une enquête publique sur ce dossier. De ce qu'on a vu, et en posant des questions, on n'a rien vu qui concernait les inondations. Donc, ça reste un projet à vocation purement écologique. Je trouve dommage qu'il n'ait pas été associé à un projet de lutte contre les inondations, comme ont pu le faire à la mairie de Lansargues sur Dardaillon. Ils ont associé à la fois le travail sur le cours d'eau, le travail écologique sur le cours d'eau, et la prévention et la protection contre les inondations. Là, c'est pas le cas.
Monsieur Bourguet, non. Le travail a été fait par le CIMBO, qui a identifié les lieux où il y avait les différents cours d'eau sur lesquels il y avait des inondations possibles, D'ailleurs, il y a des travaux qui ont été faits sur la JAS et d'autres travaux qui se feront sur la JAS, il y en a qui se feront sur la Cadoule aussi, mais le Salaison, grâce à l'élargissement de son lit, ne va pas connaître des débordements tels que ceux qu'il a pu connaître.
Non, non, c'est pas vrai, il ne change pas le débit. Non, il élargisse, mais il le réduise. Il ne change pas le débit du Salaison. Il ne le change pas d'un mètre cube.
On vous dit qu'on élargit le lit.
On le rétrécit en bas. On l'élargit en haut, on le rétrécit en bas. Donc on ne rajoute pas de débit dans le Salaison.
Ça sera favorable à l'écoulement des eaux.
Ça ne sera pas favorable pour nous protéger des inondations.
Mais
on ne touche pas au débit du Salaison, on ne fait pas de bassin de rétention en amont, on ne fait rien, que ce n'est qu'un projet écologique financé en grande partie par les ASF.
Vous savez quand même comme moi qu'on a tenu compte de l'habitat diffus qui se trouve dessous, en amont, en aval du pont des Aiguerelles, et que l'initiative au départ, qui était celle d'agrandir l'encorbellement du pont avec une arche supplémentaire, a été abandonnée, au motif que le débit qui était mieux accompagné ainsi risquait de mettre à mal ce qu'on appelle les ambas. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois ce que je veux dire. Voilà. Ce que vous voulez dire.
Voilà.
Oui.
Donc, il a été tenu compte du risque d'inondation, de travaux qui auraient profité aux gens qui étaient dans la zone dense et qui n'auraient pas du tout profité, qui auraient été néfastes même à ceux qui sont dans l'habitat isolé, dans des conditions qui ne sont pas aussi polissées et anticipées que celles qui sont. Il vaut mieux habiter au niveau du chemin des peupliers qu'habiter en dessous du pont des Aiguerelles.
Oui, mais les luttes contre les inondations, ça concerne toute la commune. Ça concerne
mais ça marque plus de l'eau voilà, et plus de l'eau.
Donc non.
Gravité en bas, ça s'explique.
Du dossier tel qu'on nous l'a présenté, il n'y a aucun changement sur le débit du Salaison.
Voilà. Daniel.
Ouais.
Il y a monsieur le maire.
Après, le dossier a pu évoluer depuis l'enquête publique.
Monsieur Galil. Non,
je vais ajouter. Monsieur le maire a évoqué pas mal de points là-dessus. On ne s'est pas été faire un truc contre les inondations. On l'a déjà dit maintes fois. Ça a été pour la rivière, pour l'eau.
C'est
écologique, le terme.
C'est ce que j'ai dit.
Il n'y a pas de écologique. Donc, il y a après le symbole, par contre, par le papier. Là, c'est un truc inondation. C'est pas pareil. On ne peut pas mélanger. Je sais très bien que ça peut prétendre à de l'argent qui a été manipulé deux fois pour rien. Non, c'est pas vrai. C'est pour faire. On est obligé, d'ici 2025, je crois que c'est maintenant, ça va arriver. Si on n'a pas fait ces opérations-là qu'on va faire, qu'on a fait sur le Dardenon, donc tu l'as dit tout à l'heure, et la Virodome à l'Ansargue, donc on va être pénalisé. Les communes, enfin, les structures, c'est pareil, c'est de l'argent public, donc on va payer des pénalités parce qu'on n'aura pas fait tous ces travaux-là. On a été les premiers à le faire, le Tiatéo, a été le premier à prendre c'est vrai que ce n'était pas très populaire au départ, quand on a dit on va faire des travaux, mais ça ne concerne pas les inondations. Là, ça concerne la qualité de l'eau. Non, mais il faut savoir qu'à un moment donné, on est obligé de prendre après le taureau par les cornes. On ne s'est pas être mis déjà à tout. Mais heureusement, les propriétaires, quand même, il y a 40 propriétaires, il y a rien sur Mogno qui ont signé. Il n'y a aucune expropriation. Je m'en réjouis. De ça, nous en réjouissons. Et du côté de l'Ille-et-Loire et du côté de l'Ansargue, pareil. Donc tout le monde a compris, plus ou moins, l'intérêt que ça avait écologique de ces travaux que l'on faisait. Et en même temps, ça donne un plus pour les jeunes qui veulent aller se promener au bord des cours d'eau. Donc, en aval, ça n'en aura pas davantage, hein, parce que ce n'est pas possible. On n'aurait jamais eu de problème par la préfecture si on avait eu, si ça inondait davantage. Donc, oui, voilà.
Je pense qu'on est d'accord, avec des approches différentes. On est d'accord sur le principe. Bon état écologique de l'eau.
Voilà, oui.
Voilà, allez. On passe au vote, si vous voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant.
Le point 19.1, c'est l'approbation de la dénomination de voie. La voie, elle se trouve, quand on va sur Montpellier, en sortant de Mourgio, c'est la rue de la Roubine qui est à gauche, celle qui est en face de la rue des Ormis. Et cette rue dessert un groupe de maisons, un lotissement, et il y a deux maisons isolées qui sont dans une petite impasse qui se trouve derrière ce lotissement. Et ces deux maisons-là n'ont pas d'adresse, malheureusement. Donc, il est proposé de dénommer cette impasse, l'impasse des Nicocouilles.
C'est bien.
On passe au vote pour les micro-couliers. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Continue Bernard.
Le 19B, donc c'est toujours l'approbation de nomination de voie. Là, il s'agit du chemin de Palocchi. C'est un chemin qui est, le chemin des Garrigues a été coupé par la ligne LGV. Il convient donc, il y a un côté qui continue à s'appeler le chemin des Garrigues, et l'autre côté, il convient de nommer cette portion qui n'a plus de nom. Et donc, elle dessert le mas Palocchi. Donc, on a demandé à ce que ce chemin s'appelle le chemin de Palocchi.
C'est pas original, mais c'est
pas original.
C'est légitime.
Mais c'est approuvé par le propriétaire.
On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Continue Bernard.
Alors, la 19C, c'est toujours la dénomination. Là, il s'agit de la ZAC des portes de l'aéroport qui a été créée par l'AGLO. Cette rue est située dans le prolongement de la rue du Rajol. Donc, il nous a paru tout simple et logique d'étendre le nom de la rue du Rajol à la rue qui dessert cette ZAC des portes de l'aéroport. Elle est exactement en face. Donc, voilà.
On passe au vote. Contre, abstention. Merci. Mandat spécial déplacement à Paris dans le cadre de la marque Destination pour tous. Donc, il s'agit d'une démarche à la tête de laquelle se trouve notre ami Laurence Gély pour un déplacement à Paris le 20 et 21 janvier pour représenter le 20. Pour représenter la commune dans la candidature Destination pour tous. Voilà, il s'agit de. Laurent, si tu veux en dire un petit mot, moi je délibère sur le principe, mais tu peux nous dire en deux mots.
Oui, alors Destination pour tous, c'est une marque d'État. Ça fait suite à un travail que l'Office de tourisme avait déjà entrepris sur une première marque d'État qui s'appelait Tourisme et Handicap. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on a eu le trophée d'or 2018 pour le travail qu'on a réalisé sur l'accessibilité des quatre types de handicap. Donc on est allé plus loin, on s'est engagé sur Destination pour tous, qui là pour coup est une marque d'État qui implique l'ensemble de la commune. Donc il ne s'agit plus de l'Office de tourisme, mais bien de l'ensemble de la commune et satellites, donc capitainerie, CCAS, Office de tourisme, tout le monde est concerné. C'est une marque qu'à ce jour, seules trois communes ont. Bordeaux, Amiens et Balaruc-les-Bains. Donc on monte porter notre dossier au ministère devant 30 personnes qui représentent à la fois l'État et à la fois les associations. Et on espère l'avoir. Il n'y a rien de gagné aujourd'hui, mais en tout cas on a fait tout le travail qu'il fallait pour aller dans le sens d'une labellisation.
Merci Laurence. On croise les doigts. On passe au vote contre, abstention. Je vous remercie. Même démarche par rapport à un mandat spécial aux élus, déplacement à Midoun dans le cadre du jumelage avec la commune de Midoun. Une délégation s'est rendue à Djerba le 17 au 20 octobre suite à l'invitation de notre ville jumelle. J'ai eu le plaisir d'y aller avec Madame Moulin-Trafort, adjointe à la culture, au commerce, aux manifestations, et pour nourrir des échanges avec le président de la municipalité et ses conseillers. En sachant que nous avons des échanges de collaborateurs qui se sont pratiqués et aujourd'hui une collaboration d'autant plus facilitée qu'à partir du mois d'avril nous allons avoir le vol avec Djerba pour une somme qui avoisine les 50 ou 60 euros, donc qui va être de nature, j'espère, à rapprocher à resserrer les liens que nous aurons avec nos homologues qui vont construire une place, Mugio Carno. Donc nous avons travaillé avec eux et nous espérons que ces démarches aboutiront comme elles ont pu être vivantes par le passé. Donc je vous demande de nous autoriser à cela. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Convention d'intervention ponctuelle et de mise à disposition de moyens par l'agglomération des Pays de l'Or. En fait, quand nous avons de grandes manifestations, nous sommes parfois obligés de faire appel à un camion-grue qui s'appelle l'Empirol, qui est fourni par la communauté d'agglomération
et chaque fois nous payons le service qui est rendu, puisque c'est quelque chose de particulier, ce n'est pas une charge qui est déjà déduite dans le cadre de la commission de transfert des charges. Donc je vous demande de m'autoriser à cela. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point suivant est un point relatif au personnel. Alors, nous avons une personne qui a travaillé à la commune, qui a eu un accident de service le 31 juillet 2009, donc c'est quelque chose qui est ancien, et il y a eu une contestation entre les services de la commune et cette personne, donc concernant les préjudices qu'elle a subis et les recours indemnitaires. 17 procédures, dont 6 référées devant le tribunal administratif depuis 2013. Et nous sommes enfin arrivés. Je peux dire le nom ?
Oui.
Nous sommes enfin arrivés avec le conseil de Mme Belloc, puisque c'est ainsi que cette dame s'appelle. Nous sommes arrivés avec son conseil. Et grâce à une nouvelle ordonnance du tribunal administratif, a prolongé la médiation de 3 mois et nous sommes arrivés à un accord. Par cet accord, la commune s'engage à accepter la démission de Mme Belloc, à lui accorder une indemnité pour la réparation des différents préjudices subis et à se désister des instances en cours. Mme Belloc, qui ne souhaite plus travailler pour la commune, s'engage à présenter sa démission via des instances en cours et à n'engager aucune action volontaire envers la commune. Par ailleurs, une indemnité s'ajoute aux différents préjudices subis à hauteur de 4 780 euros. Voilà. En fait, pour résumer la chose, il s'agit d'une contestation d'un accident de travail avec 10 ans de procédure. Voilà. Je vous invite à souscrire à cette proposition qui enfin aboutit, j'allais dire, au bénéfice de la personne et également au crédit de la commune pour arriver à sortir. Bon, je ne sais pas si c'est par le haut, mais en fait de manière décente et convenable de ce conflit. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point 23 est relatif au lancement de la délégation de services publics de l'eau de plage pour la période 2021-2027. Vous le savez, l'État autorise un sous-traité de concession aux communes pour exploiter, selon des emplacements préalablement définis, ce qu'il convient d'appeler des lots de plage. Ces lots de plage ont été potentiellement attribués, enfin, leur exploitation, sur une période de 12 ans, et nous sommes en train de terminer le premier quinquennat. C'est-à-dire que l'année 2020 verra la première partie de ces 12 ans se terminer avec la nécessité de relancer une des autorisations d'occupation du domaine public pour une période de 7 ans, c'est-à-dire la période de 2021 à 2027. C'est-à-dire que les attributaires n'opéreront pas lors de la prochaine saison, mais lors de la saison 2021. Il s'agit d'attribuer 3 grandes buvettes, 2 qui sont en grande traverse, une qui est à Canon Ouest, 2 petites buvettes et un manège d'enfants. Un jeu d'enfants, excusez-moi. Un jeu d'enfants. Voilà. Donc, il convient justement de demander l'autorisation au conseil municipal pour demander l'autorisation d'occupation de ce domaine public et de monter le cahier des charges correspondant, en sachant que ce n'est pas une mince affaire et que l'exploitation de ces lots de plage durera 7 ans et que l'argent qui est recueilli, qui est encaissé pour ces lots de plage est réinvesti, et malheureusement il ne suffit pas, pour l'entretien de la plage, de ses environs, et au bénéfice de l'économie touristique de Canon, et plus largement de la commune de Mouillot. On passe au vote. Monsieur Frappoli.
Monsieur le maire, ces attributions sont strictes, c'est-à-dire que vous attribuez un lot de plage à un particulier, et il ne restera pendant 7 ans uniquement dans la proposition qu'il vous fera par rapport à l'acquisition de ce lot de plage. Il ne peut pas agrandir, par exemple, ou faire alors, du repas.
Monsieur Frappoli, c'est très encadré, c'est-à-dire il y a un cahier des charges, un CCTP qui est draconien peut-être pas le terme, mais enfin, il est très bien encadré. Et je puis vous dire que, comme je vous sais attentif à la vie quotidienne, vous avez, il ne vous a pas échappé que les lots de plage cette année ont été sévèrement contrôlés. Ils ont été régulièrement, en tout cas, contrôlés par les services de la préfecture, qu'il y a eu un sujet relatif au bruit et aux animations musicales, et qu'un frein a été mis à ce qui était considéré par l'État comme une exploitation abusive et une entorse au cahier des charges. Le maire n'a jamais, le maire autorisé par le conseil municipal, puisque ça passe en commission d'appel d'offres, et que la commission d'appel d'offres fait une proposition qui est votée et entérinée et applicable par le conseil municipal. C'est-à-dire que c'est extrêmement encadré, qu'il y a des enjeux financiers relativement importants. D'ailleurs, vous le savez, il y a une procédure qui avait été cassée hier, lors de la dernière session, lors de la dernière commission, concours, attribution. Donc, pardon ? C'est une délégation de services publics.
C'est un peu le problème, monsieur, parce que je m'en occupais quand je faisais les plages à l'époque. Et ma dernière mission, c'était à Agde, et je peux vous dire que ça avait été repris. Voilà. Donc,
oui.
Voilà. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que
ça
n'était pas assez élaboré au niveau du cahier des charges, et qu'à un moment, les gens qui s'engageaient là prenaient quelques... Voilà.
Oui, il m'a été dit qu'à Agde, quand ils étaient parfois habillés pour l'hiver. Hein.
Oui, oui.
Ce qui est...
J'allais jusque là, monsieur. J'allais jusqu'à une autre.
Ce qui est assez étonnant, d'ailleurs.
C'était rock'n'roll. Je vous dis, c'était rock'n'roll.
Bien, on passe au vote. Hein. Qui est contre, qui s'abstient, vous abstenez. Je vous remercie. Alors... Instauration du compte d'épargne temps pour les agents de droit privé de la régie municipale du port de Carnon. Alors, les agents de droit privé, vous le savez, compte tenu du statut de régie autonomie pour la régie autonome du port de Carnon, on a des travailleurs, des collaborateurs qui ne sont plus des fonctionnaires territoriaux, mais des gens de droit privé. Il est question dans ce document qui est très détaillé, d'appliquer les mêmes modalités que pour les agents de droit public, ce qui me semble la moindre des choses. Aujourd'hui, les dialogues sociaux qu'on a militent pour une forme d'universalisation des statuts, ce qui me paraît être une bonne chose, évitant au maximum les distorsions. Donc je vous propose d'aligner les gens de droit privé, enfin les collaborateurs, pardon, sur ceux du public. Ça ne vous choque pas ? Qui est contre ? S'abstient. Je vous remercie. Dans le droit fil de ce que je viens d'exposer, donc il s'agit des indemnités d'astreinte des agences au statut de convention collective, eh bien, il s'agit de procéder, pour ce qui est de la rémunération, d'appliquer aux agents de droit privé ce qui existe pour le public, on le fait pour le privé. Je vous demande d'autoriser les astreintes des agents administratifs d'accueil de droit privé au port de Carnon sur la base des montants votés pour ceux des agents publics par la délibération du 25 juin 2018 telle qu'il figure dans le tableau. Vous avez le tarif horaire de tous ces agents. On passe au vote. Contre, abstention. Merci pour eux. Le point suivant, dont je prends le point, M. Tricoire est en souffrant. C'est moi qui vais prendre le point. Il s'agit du renouvellement de la convention de mise à disposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ACFI. Alors, je vous fais grâce de la lecture du document, chose que vous avez déjà faite. Simplement, ce monsieur est dépêché par le centre de gestion, il s'appelle M. Macheret. Ce monsieur est une espèce de régulateur entre les organisations syndicales et l'employeur qu'est la mairie, qu'est la commune, pour justement vérifier de la bonne conduite de tout ce qui est mesures de prévention, bien-être au travail, ou mal-être au travail, on parle plutôt de bien-être aujourd'hui, de respect des consignes, respect des locaux, et il émet ce qu'on appelle un carnet de préconisation, Et je puis vous dire que sa présence et ses interventions sont toujours discutées et bien perçues, et que je suis ravi de dire que par son entremise, les relations avec les syndicats sont de nature à militer pour le bien-être et la sécurité des agents. Voilà. Qui a été traité dans la personne qui est indifférente à l'institution, c'est assez rare. Des fois, ça arrive, c'est un cas d'espèce, mais nous essayons toujours de pratiquer au sein de la collectivité la concertation, la médiation et les approches les plus respectueuses du statut de chacun. Donc, on passe au vote. Si vous êtes d'accord, c'est le renouvellement de la convention. Contre, abstention. Je vous remercie. Recensement, point 27, recensement de la population 2020. Ben, il s'agit d'une indemnité que vont percevoir 4 agents. C'est 3649 euros. C'est l'INSEE qui les verse à la commune et nous on les verse aux agents qui s'acquittent d'une opération de recensement. Ça leur fait 912,25 euros chacun. Un petit peu plus que le receveur quand même. Je sais pas, ça leur prend peut-être plus de temps. On passe au vote contre l'abstention. Merci pour eux. Sophie, Madame Campagne va nous parler des médiathèques.
Alors, il s'agit de la reconduction d'un partenariat avec l'agglomération à destination du jeune public et des parents dans le cadre de la politique de développement de la lecture publique à destination de la petite enfance. Les interventions se font à la maison des enfants à Mogou une fois par mois le mardi matin de 10h à 11h. Il est proposé aux membres du conseil d'adopter la convention annexée d'intervention ponctuelle des bibliothécaires de la commune au sein de la maison des enfants à Mogou.
Bien. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie.
Le point suivant concerne les classes transplantées. La municipalité engagée dans une politique de soutien aux classes transplantées participe au financement selon les modalités reconduites chaque année et présentées dans la délibération. Pour l'année 2019-2020, 410 élèves devraient participer au projet pour un coût global de 30 725,67 €. Le nombre d'élèves participants est susceptible d'évoluer au gré des départs et arrivées sur la commune. Les crédits étant inscrits au budget, il est proposé aux membres du conseil d'autoriser monsieur le maire et l'adjoint délégué à signer les 10 conventions.
Merci. Madame Grèce.
Oui, je voudrais savoir, y a-t-il des enfants qui ne partent pas parce que les parents financièrement
non.
ne peuvent pas?
Jamais.
Jamais.
Jamais l'accompagnement est prévu pour que l'ensemble des enfants ne partent pas. Quand il y a un départ qui ne se fait pas, c'est que les parents ne souhaitent pas que l'enfant participe. Après, c'est très encadré, hein, c'est très surveillé. Il y a plus de 3 enfants qui ne partiraient pas de toute façon, quel que soit le motif. Le départ ne serait pas autorisé par l'éducation nationale. Mais sur la commune, on n'a pas de problème de financement. Il y a toujours une participation qui se met en place pour pouvoir accompagner les familles qui seraient dans les lits. Oui, c'est bien.
Merci. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Jean-Sophie, 29.
L'école Notre-Dame est une école privée sous contrat pour laquelle il convient de déterminer le montant de la participation de la commune pour le financement d'une classe transplantée. La contribution proposée est de 1 650 € et n'est en aucun cas supérieure aux avantages consentis par la commune aux écoles publiques. Il est proposé d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention.
Rien de nouveau. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Les enseignants qui partent en séjour, oui. Qui partent, qui accompagnent oui. Les élèves, qui s'occupent des enfants, ils partent pas. On leur fait pas
le
projet. Non,
c'est
comme à chaque départ en classe de neige, il conviendrait d'accorder une indemnité, aux enseignants des écoles élémentaires qui accompagnent les élèves, ainsi qu'à l'ABS qui accompagne bénévolement les élèves d'une des écoles concernées. Le montant proposé est de 152,45 €. Monsieur le maire, il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir agréer la proposition de monsieur le maire.
Très bien. On passe au vote. Contre, abstention. Merci pour les enseignants. Est-ce que madame la ministre scolaire?
La ville engagée dans une politique éducative ambitieuse soutient à ce titre les projets engagés dans les écoles. Dans ce cadre, la commune supporte les charges liées à la venue d'intervenants extérieurs à hauteur de 500 euros par classe pour les écoles publiques et 250 euros pour l'école Notre-Dame, soit pour l'année scolaire en cours, 30 500 euros, pardon. Il convient d'autoriser M. le maire à signer les 10 conventions avec l'ensemble des intervenants présentés en annexe.
Oui, au passage, merci Sophie. On a réussi, malgré les difficultés, à garder cette subvention d'appoint qui permet une complémentarité artistique fort appréciée et par les enfants et par les enseignants et par les familles. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie.
La délibération suivante concerne encore un projet d'école. Donc, toujours dans le cadre de la politique de soutien au projet éducatif porté par les enseignants de la ville, M. le maire propose d'accompagner l'école élémentaire Jean Monnet dans son projet portant sur l'éducation à la citoyenneté et la prévention au harcèlement. Il est proposé de participer au financement à hauteur des 840 euros sollicités par l'école. Les crédits étant inscrits au budget, il convient d'autoriser M. le maire à signer la convention avec l'intervenante mentionnée dans la délibération.
Merci. Passage au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. On change de rapporteur, surtout quand c'est une rapporteuse. Partie, Madame Moulet-Rapport.
Alors, il s'agit-il de la proposition des dates relatives à l'ouverture dominicale de 2020 pour la branche automobile et pour les commerces de détail. Alors, bien que le repos dominical soit énoncé dans le Code du travail, en vertu de la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, La règle en matière d'ouverture a évolué. Le nombre maximum de dimanches dérogatoires passe ainsi de 5 à 12, sous réserve d'un avis favorable du Conseil communautaire. Vous avez donc dans la délibération les dates d'ouverture dominicale pour le secteur automobile. Elles sont au nombre de 5. Et pour les commerces de détail, elles sont au nombre de 12. La communauté d'agglomération de Pays de l'Or a rendu un avis favorable pour toutes les ouvertures dominicales précitées. Il est donc proposé aux membres du Conseil d'autoriser sur la commune de Mouglieu-Carnon l'ouverture des commerces en 2020 selon les dates mentionnées.
Bien. Merci. Personne n'est fermé aux ouvertures. On y va. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Partenariat entre la ville et Cinéplan ?
Alors, nous abordons ici le partenariat entre la ville et l'association Cinéplan. La ville soutenant l'accès au 7e art dans sa politique de proximité, nous proposons des séances le dernier mardi de chaque mois au Théâtre Bassager, et ce d'octobre à mai, en pratiquant une tarification qui est maîtrisée, à raison de 4 euros pour une séance classique et de 5 euros pour une séance en 3D. Il vous est donc demandé d'autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat avec l'association Cinéplan.
Bien. On passe au vote pour le 7e art. Contre, abstention. Merci. Sophie Eglène, pour le point 35.
Alors, programme. En février 2019, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, MIDECA, a lancé un appel à projet afin de prévenir à l'échelle du territoire les comportements à risque des jeunes liés aux substances psychoactives. Dans ce cadre, le pôle jeunesse et migration a répondu à cet appel à projet et a mis en place, a répondu à l'appel à projet et à ce titre, une subvention lui a été accordée sous réserve de la mise en place d'un plan d'action spécifique qui doit être concrétisé par la mise en place d'une convention pluriannuelle de 3 ans entre 2019-2020 de partenariat qui fixe les étapes, les objectifs et les livrables attendus tout au long de ce partenariat. La convention de partenariat se décline autour de deux volets d'action, les informations, la communication, la prise de conscience citoyenne, les interventions en faveur des jeunes concernés par des comportements à risque liés aux substances psychoactives. Il y aura donc dans ces démarches des maraudes, des animations sur le week-end, les soirées, les vacances scolaires afin de sensibiliser, aller à l'encontre des jeunes présents sur le domaine public et créer du lien. Le dispositif éphémère sera renforcé pour accueillir les jeunes qui se regroupent sur l'espace public en soirée en proposant un lieu sécurisé afin d'évaluer les comportements, les situations à risque que peuvent rencontrer les jeunes. Le MICA s'engage à verser
50 000 euros à la collectivité pour la mise en place de ce plan d'action. Un premier versement de 30 000 euros à la signature de la dite convention et un deuxième versement de 20 000 euros qui interviendra à l'issue du COPIL sur présentation d'un premier bilan financier faisant état des sommes réellement engagées et liquidées à la date du 31/12/2020. La présente convention pluriannuelle est conclue pour 2 ans.
Merci Sophie. Je souligne l'importance de cette enveloppe qui trouve sa source dans l'excellence du dossier et de la démarche. En effet, l'État, depuis des années, est attentif à tout ce qui est fait en matière de prévention. Et là, il faut dire que cette fois-ci, on n'a pas décroché le gros lot, mais enfin, on a quand même eu la reconnaissance financière de gros efforts déployés depuis des années. Et je dis au nom de l'équipe que tout le monde est très encouragé par cet accompagnement de l'État qui a été salué de temps en temps par des visites, même ministérielles, comme dirait Bernard Tassard, notre premier adjoint, qui s'est prévalu de mon absence pour accueillir Gérard Coulon. Voilà, en fait, ça fait plaisir. Voilà.
Il n'y a eu que 14 communes en 2019, dont Montieu-Carnot.
Pardon ?
Il y a eu 14 communes de sélectionnées, dont Montieu-Carnot.
14 sur le territoire national.
Voilà.
Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Vas-y. Bien,
juste une petite précision. Pour la petite histoire, c'est exactement ce que j'ai créé à La Payade en 1994, qui s'appelait le Centre des jeunes de la police, et qui a abouti à des réussites sociales, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Bourrel, le vice-président de la métropole de Montpellier, qui était venu à un débat public sur l'élargissement de la RD de la route Vaillard. Moi, j'appelle ça la route Vaillard.
Le
CD26. Donc, je suis ravi que ce qu'on avait mis en place dans le cadre de la police nationale dans les quartiers difficiles, parce que c'était au petit bar Fayade, c'était pas quand même sur le plan de Paris, et que ce soit pérennisé dans le temps par rapport aux réussites qu'on avait. Je me tiens un petit peu de l'auréole. Tout à l'heure, Madame Favier se félicitait de la...
Non, je ne me suis pas félicité, j'ai dit que j'étais heureuse.
Mais vous étiez heureuse, moi je suis heureux de voir que ce qu'on avait mis en place à l'époque, et qui était décrié par notamment certains syndicats de police, on apporte aujourd'hui une réponse à beaucoup de questions qui se posent sur les déviances, notamment dans les interventions avec les gamins et sur les interventions dans les collèges. C'était une expérience difficile, mais qu'on a menée à bien.
Voilà, M. Frappoli, vous étiez un visionnaire, c'est dommage que vous n'ayez pas voté le budget. Mais bon, on ne va pas vous demander tout à la fois.
Non, pas. N'oubliez pas, M. Bourrel, que moi je suis élu que depuis un an et demi, et je n'ai pas les compétences de tous les autres.
Non, ne soyez pas modeste.
Mais merci à la voyage, il est très bon. Hein.
C'est nouveau, je t'en prie d'attendre. Bon, mais...
Vote numéro 36, et ce sera un vote. Pardon ? Oui, il faut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et tout c'est pas. Certains ont dû connaître, mais ceux qui sont un petit peu d'ancienneté. Le point numéro 36 me rappelle un animateur de 36 chandelles. Et il y a un peu la tête de Jamoul. Jamoul. T'as réservé le point 36, André. À toi.
Merci, monsieur le maire. Donc, j'ai l'honneur de continuer ce conseil municipal et ça me fait un grand plaisir.
Alors, de nous voir.
Alors, monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre de sa politique relative au lien social et à l'amélioration du cadre de vie, la municipalité organise des vides-greniers, des rassemblements populaires au cours desquels les habitants de la commune exposent des objets dont ils n'ont plus l'usage, ils veulent s'en débarrasser en les vendant aux visiteurs. Chaque vide-grenier, il y a 60 places qui sont proposées, les 40 places pour les habitants des quartiers concernés et les 20 autres pour les habitants des autres quartiers, toujours de la commune. Les participants s'acquittent du paiement des stands dont le tarif a été fixé à 4 euros en conseil municipal en délibération numéro 213 du 22 décembre 2014. À l'approche des fêtes de fin d'année, un vide-grenier spécifique autour de Noël, bien sûr, avec un prix de stand fixé à 5 euros depuis 2014 par le conseil municipal, est organisé en partenariat avec une association caritative. Cette année, c'est avec le Secours Populaire que le partenariat a été établi. Lors de cette action, 40 stands ont été proposés aux habitants de la commune, réservés uniquement aux jouets et autres affaires pour les enfants, des livres, vêtements, jeux, puériculture, et etc. Par ailleurs, il est proposé à tous les exposants de faire un don au Secours Populaire en affaires pour les enfants, jouets, etc. Alors, il est donc proposé aux membres du conseil municipal ici présent d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association du Secours Populaire, le montant correspondant à la vente des stands qui sera réalisée dans le cadre de ce vide grenier spécial Fête de Noël.
Merci. Je précise que l'exposé des points ne s'est pas fait dans la contraction, mais dans la décontraction. Allez, qui est contre, qui est pour, qui s'abstient, tout le monde est pour, je vous remercie. Donc, sur cette note joyeuse pour ce dernier de ce conseil, je vous donne rendez-vous pour le repas des aînés pour ceux qui y seront, ceux qui y ont droit, je ne sais pas, après demain. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et vous donne rendez-vous pour la présentation des vœux au gymnase de Beugnon le vendredi 10 janvier à partir de 19h. Mais vous serez invités de droit, bien entendu. Je ne vous serez pas oublié.
Je voulais vous dire que
le prochain conseil aura lieu le 10 février.
Voilà. Les places relais qui servent aujourd'hui à l'éducation nationale sont issues des actions qu'on avait menées avec l'ensemble de la ZEP à la paillasse.
C'est bien.